personnes qui sont contentes d'avoir un grand auditoire. Barack Obama et moi-même.
Ah oui.
Voilà. Et je ne sais pas qui est le plus heureux des deux. On commence cette soirée avec le sourire,
peut-être un peu moins, parce que c'est moi qui suis très frappé par ce texte qui a été lu, parce que de façon presque littérale, la première phrase de ce texte fait partie du Seder de la Pâque. Le Seder de la Pâque, c'est le récit de la sortie d'Égypte, que Christ a récité à ses apôtres, comme tout bon Juif, le soir de la Pâque. Et cette exhortation à sortir tous les jours d'Égypte, qui renvoie à la fin de ton texte, le fait que le messianisme pour la tradition juive, ce n'est pas un événement, c'est un événement complètement intérieur, invisible, mais c'est une action permanente vers les temps futurs. Je crois que ça nous renvoie tout à fait au temps présent. D'autant que les catastrophes qui se passent actuellement sur la Terre Sainte peuvent pour certains ressembler à ce que nous appelons le révélé à Machia, les douleurs de l'enfantement du Messie. Et pour beaucoup de penseurs contemporains, ces signes absolument désastreux peuvent sembler le Hatralat de Geoula, c'est-à-dire le début de la délivrance. Donc c'est une idée qu'il faut garder présente à l'esprit et considérer un peu ces événements qui sont tragiques, qui sont inacceptables et qui sont injustes pour la plupart, dans une perspective qui est beaucoup plus globale. La semaine dernière, je suis intervenu à l'archevêché de Chambéry sur un cycle de conférences qui n'est pas très loin de l'éthique puisque ça concerne la souffrance, le sens de la souffrance dans la tradition juive, et je n'ai pas commencé mon exposé sans parler de la souffrance sur sa place palestine, où quelque part des populations sont les otages, sont les victimes des pouvoirs politiques. Car ce n'est pas une guerre religion, hein, c'est une guerre nationaliste, c'est une guerre entre deux nationalités, l'une qui a eu son état, l'autre qui va certainement l'avoir, et que quelque part ces gens, je parle ici surtout des Palestiniens, sont otages de gens qui ne sont pas des démocrates, quelque part. Nous avons la chance, nous, en France, d'être en démocratie. Et chacun d'entre nous, comme il le sait, dans la rue, dans la presse, aux côtés des amis, ses préférences, ses inclinations, sa compassion, si vous voulez. C'est normal, c'est la démocratie. On peut défiler dans la rue, on peut faire ce qu'on veut dans la presse, on peut en parler. Mais, quelque part, il faut impérativement que nous gardions ces ponts que nous jetons entre nos communautés, tels que ce soir, ces ponts qui sont ceux du dialogue, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas en Palestine. Et la moindre décence consiste à ne soutenir ni un camp ni l'autre, ou tout au moins à laisser ici cet espace tout à fait libre pour une parole, et qui sera une parole de paix. Je dirais quelque part que les collusions actuelles, le détournement un peu des événements, de cette douleur, par certains hommes politiques, je veux dire, le défilé est absolument incompréhensible de l'extrême gauche française, avec les barbus intégristes de l'UOIF, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Il est tout à fait étonnant également que, quelque part, personne n'ait manifesté pour les 300 000 morts du Darfour, pour les 200 000 morts de Tchétchénie, pour les 300 000 chrétiens qui sont massacrés ou chassés en Irak, en Chaldée, pour les Coptes assassinés tous les jours en Égypte. Donc, quelque part, cette martyrologie manque un petit peu au tableau. Et je vous dirais ça aux bonnes consciences. Bien sûr que nous sommes navrés, bien sûr que nous souffrons. Si on met quelque part, il y a des indécences qu'il faut quand même savoir relever, quelque part. Indécence, c'est certain, mais quelque part encore, il faut que nous ménagions, il faut soutenir dans ces endroits, non pas les forces de haine, non pas les forces de séparation, mais les forces de paix. Quoi, quelque part, caricaturer Israël sous la forme d'un État nazi, présenter ses dirigeants comme de nouveaux Himmler, de nouveaux Hitler, c'est une caricature. Et d'autant plus inconcevable que cet État a été bâti sur les ruines de l'Holocauste. Donc là encore, une indécence supplémentaire. Donc nous souffrons, moins de souffre dans ma chair, de ces 1300 morts palestiniens. Qu'ils soient membres du Hamas ou pas, comme je souffre depuis déjà 10 ans des bombes qui tombent sur le sud d'Israël. Souvenez-vous, 47 000 fusées en 2 ans sur le sud d'Israël, sans compter les tirs de mortier, sans compter les armes de soldats. Je veux dire, quelque part, on a très vite passé ça là. Donc, je veux dire, il faut savoir raison garder du recul, et surtout penser que, quelque part aussi, tout ceci peut être le début d'autre chose. Il faut le souhaiter, il faut prier pour. Je ne voulais pas commencer mon exposé ce soir. Je ne voulais pas, comme je le disais la semaine dernière, que nous nous fassions plaisir intellectuellement ce soir, au détriment de cette actualité qui est tellement lourde, tellement douloureuse et tellement insupportable. Mais une fois secoué le poids de cette douleur, méfiez-vous de la compassion, ça ne suffit pas. Il faut l'action, et l'action pour nous en France, où c'est un espace de laïcité, de liberté, un lieu d'échange, c'est la parole, c'est retourner dans les livres, c'est apprendre l'histoire, c'est diffuser les vraies informations, c'est échapper à la désinformation quelque part, et faire quelque chose de positif pour que quelque part les choses bougent là-bas enfin, dans le sens de ces temps-là, ces temps de la justice, dont je vais parler tout à l'heure, quand je terminerai mon propos sur le culture. Voilà, je tenais de tout faire à vous parler de ceci, en vous disant bien évidemment que il ne s'agit pas de savoir qui a gagné. Et la pire des choses, c'est-à-dire qui a gagné. Je pense que tout le monde a perdu quelque chose. Mais au moins, quelque part, nous n'avons pas perdu le sens qui nous mène vers un monde de paix et un monde de justice. Parce que tout simplement, nous avons foi en quelque chose. Ce qui se passe sur la terre d'Israël, ça se passera n'importe où. Ça se passe sur une terre qui est celle de la promesse. Ça se passe sur une terre qui a été trop promise à son tour. Mais si quelque chose doit se passer sur l'humanité, c'est cette terre-là. Et je revenais sur cette métaphore que j'en voulais tout à l'heure. Tout ceci, il faut le considérer comme, sans doute, l'enfantement d'autre chose. Et notre progression permanente vers ce monde qui vient vers nous. Nous allons à sa rencontre et ce monde vient vers nous, comme tu l'as parfaitement évoqué tout à l'heure. Le titre de ce soir a été un peu débattu, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais je lui avais proposé la tradition juive entre loi et éthique. Je n'avais jamais parlé de tradition juive, loi ou éthique. Mais ça me permet quand même de commencer mon propos exactement comme j'ai commencé lors de ma conférence sur l'amour du prochain. Lorsque nous avons débattu ensemble, voici quelques temps, du commandement d'aimer, j'avais commencé mon propos en parlant de la sainte colère d'Elia Ben Amozeg, c'est-à-dire l'auteur du livre qui s'appelle « Morale juive et morale chrétienne ». En remplant cette colère, j'avais dit que cet homme se luttait contre une assimilation récurrente du judaïsme à la rigueur de la loi, à un Dieu terrible et justicier, et celle du christianisme à l'amour, à la miséricorde et au pardon. Et ce soir, je vais commencer à peu près de la même manière. Est-ce que le judaïsme, c'est un légalisme borné et stérile, un fondamentalisme civil et moral, dans lequel loi religieuse et sociale l'emporte sur des valeurs éthiques? Moi, mon propos ce soir, c'est de démontrer que ce n'est pas vrai, que bien sûr c'est non. Je présenterai la notion juive de loi, la Torah, les mitzvot, puis je parlerai de l'éthique biblique, et surtout, ce qui est très intéressant, l'évolution de la pensée éthique juive au cours des siècles. Et surtout, bien évidemment, je conclurai sur l'identification complète des mitzvot à l'éthique personnelle et à l'éthique interhumaine qui font de tout temps la pensée juive. Torah ou mitzvot, pour ceux d'entre vous qui chantent des airs hébraïques, on a tous chanté Torah ou mitzvot, au moins un Shabbat, c'est le credo de tout juif religieux et c'est le credo d'un autre juif religieux puisqu'il rappelle la parole de Jésus en Matthieu 3,12, voici la loi et les prophètes, Torah ou mitzvot. Mais la première difficulté de cette histoire, elle est déjà philologique. Depuis la tradition juive des 70, on entend parler de loi. Or, Torah, ça ne veut pas dire loi. Torah, ça veut dire, si je reviens aux 10 commandements, les 10 commandements, c'est les 10 paroles, c'est Devarim. Ce n'est pas nomos. En grec, nomos, c'est la loi. La Torah, ce n'est pas nomos. La Torah, ce n'est pas un code Napoléon, ce n'est pas un code civil, c'est un livre de sagesse et c'est un livre de vie. Outre cette divergence sémantique, ce clivage interprétatif, provient aussi sans doute des séquelles dans la pensée contemporaine, juive en particulier, de l'énorme conflit qu'il y a eu entre Sadducéens et Pharisiens. Et surtout, les chrétiens, les évangélistes en ont rajouté, bien évidemment, en caricaturant par la suite les Pharisiens, dont nous faisons partie. Sachez que le judaïsme actuel, c'est un judaïsme pharisien. Les Sadducéens ont disparu, les Essénéens ont disparu, et Dieu merci, les zélotes ont disparu. Vous avez expliqué les zélotes. Les zélotes, c'est des braves gens qui, comme tous les convertis de Prejdak, ils étaient édomites, convertis depuis 50 ans, et lors du siège de Jérusalem, ils ont massacré plus de juifs que de romains. Il n'y a rien de pire qu'un converti récent. Ils ont disparu dans l'histoire, et nous sommes tous des pharisiens, bien évidemment. Troisième point, un petit peu, qui peut expliquer ces divergences, ces différences interprétatives, eh bien, toujours ces séquelles de la théorie de la substitution, hein, qui a prévalu si longtemps, et il y a beaucoup d'esprits qui en gardent des séquelles assez redoutables, et on s'est emparé un peu de cet aspect de l'égalisme étroit, particulariste de la lecture rabbinique, pour s'approprier quelque part la dimension universelle et éthique de la parole, oubliant par là ce mot du Christ qui disait, toujours Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu anéantir la loi des prophètes, je suis venu pour les anéantir, mais pour les accomplir. » Une autre tension interne à la tradition juive, il y a une tension importante sur la place des mitzvot et leur l'engagement à les pratiquer dès le départ. Dans une paracha que je connais bien, puisque c'est celle que j'ai lue à la synagogue pour ma bar mitzvah, Vayakel Moshe, Moshe a réuni le peuple juif, les juifs reçoivent la Torah, et tout de suite, avant de réfléchir, ils crient, qu'est-ce qu'ils crient, qu'une a assez de mishma. On va d'abord faire, après on va essayer de comprendre. Alors ça c'est une première tension interne. Voilà quand même un peuple bizarre, qui va accepter le fardeau de la totalité de la loi, le poids de la totalité de la loi, sans faire le tri, et sans rien. Parce que c'est le premier impératif. Nous acceptons toutes les mitzvot sans en faire le tri. Et il faut comprendre que cette parole engage dès le départ une éthique de l'action. Souvenez-vous de ce mot-là, éthique de l'action. Et c'est ainsi que le Talmud dit, de façon très claire, sainte est l'action, et la sainte est la pensée qui débouche sur l'action. Sainte est la mitzvah qui débouche sur l'action. Qui sera reprise récemment, plus récemment par Bergson, quand Bergson dit il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée, eh bien, Bergson n'est pas tellement loin du Talmud. De la même manière, Bernheim, dans ce bouquin que je vous recommande, qui est tout à fait remarquable, dit il faut comprendre ce problème de masse et de mouvement en disant qu'il faut d'abord soulager la détresse de l'autre, parce que c'est urgent, et après, viendra le temps de la réflexion. De la même manière, si vous allez à Talmud Kiddushin 3a, il y a une chose étrange. Une action est plus méritoire lorsqu'on l'accomplit par un commandement que lorsqu'on l'accomplit spontanément. C'est Rabbi Hanina qui dit ça. Incroyable pour la pensée contemporaine. Et comment est-ce qu'il dit ça? Il dit simplement, dans ce cas-là, les actions, les bonnes actions, les mitzvot, sont beaucoup plus constantes dans le temps. Il dit qu'une bonne action, eh bien, c'est pas un caprice, c'est pas un fardeau non plus. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et il dit simplement que l'intelligence de l'action gage son renouvellement. Car, dit toujours Rabbi Hanina, une bonne action, par définition, elle est raisonnable. Elle repose sur une raison. Et il cite donc l'exemple de la cache-route en disant c'est parce que les juifs respectent la cache-route qu'ils peuvent parfaitement évoquer la saveur d'un plat de crevettes, par exemple, sans avoir envie d'en manger quelque part. C'est-à-dire que ce poids de l'histoire est libéralement accepté, comporte suffisamment de raisons pour continuer, bien évidemment, à l'appliquer. D'un autre côté, et c'est pour ça que je parle de tension, vous savez bien, vous tous qui avez étudié, que tout l'histoire dans la tradition de vie cède le pas lorsqu'il y a un primat de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade se nourrit à Kippour, il nous est obligatoire de transgresser le Shabbat pour soigner quelqu'un, pour sauver sa vie, pour sauver quelqu'un, même pour sauver un animal. Vous vous souvenez du débat que ça avait posé pour l'époque du Christ, comme ce problème de l'animal à sauver le jour de votre appel. Ben, tout ceci, non seulement nous est permis, mais nous est demandé lors de cette période. La halakha, sur le Talmud, le commentaire juridique, est plein de ces exemples d'interrogations où les gens demandent à transgresser les mitzvot pour sauver des vies, pour sauver des communautés, des choses comme cela. Il y a des anecdotes assez croustillantes, puisque dans les traditions séparades, par exemple, il y a des endroits en Afrique du Nord où, pour Pessah, il est interdit de manger du riz, et d'autres où on a le droit de manger du riz. Ben, tout simplement parce qu'à une époque de grande disette, les rabbins de Tunisie ont autorisé les Tunisiens à intégrer dans le rituel de Pessah la consommation de riz, qui est interdite. Donc vous voyez, tout ceci s'adapte. Voilà cette tension. J'ai écrit que l'ouverture de la lecture biblique à la critique scientifique montre bien, je viens maintenant parler d'une mitzvot directement, comment ces textes s'inscrivent dans un contexte culturel, politique et religieux du Moyen-Orient de l'époque. Parce que, bien évidemment, vous le savez bien, les Juifs ne sont quand même pas tout inventés. C'est-à-dire, quelque part, il y avait un contexte à l'époque où des lois morales existaient. Tout à l'heure, quand je parlais de l'éthique en Égypte, en Assyrie, j'y reviendrai, il y avait tout encore plus à cette époque-là qui existait dans tous ces pays. Et dans nos textes même, vous vous souvenez qu'à Genèse, on nous rappelle les sept lois noahiques, qui étaient, en fait, au nombre de six, jusqu'à ce qu'on rajoute la loi sur la consommation de la chair. Donc, je veux dire, quelque part, préexister un contexte. Mais la Torah va les intégrer, elle va les compléter, les sublimer dans l'invention d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, maître de l'histoire, mais proche des hommes. Ces commandements, j'y reviendrai tout à l'heure, sont un appel à la sainteté, l'obligation de la justice, et sa requête, c'est de l'amour de Dieu et de son prochain. Son message n'a pas de préoccupation de salut personnel, mais collectif, dans la conscience d'une élévation de tous les hommes dans l'alliance avec Dieu. Vous connaissez tous ce corpus textuel juif, j'y reviens extrêmement rapidement. Il est séparé, en gros, entre deux groupes qui ont été rédigés, mais qui étaient initialement des textes oraux. Il y a ce qu'on appelle nous la Torah écrite, la Torah Shebirta, qui comprend la Torah, les prophètes et les écrits, les Ketuvim, qui en fait a été rédigée relativement tardivement, puisqu'on pense que sa rédaction remonte à la destruction du premier temple, et qu'elle était orale auparavant. Et la Torah Shebaalpé, qui est la Torah orale, qui elle a été rédigée, c'est la même que vous connaissez, c'est le Talmud, qui a été rédigé à partir de Yavne, en 2e siècle après Jésus-Christ, jusqu'au 4e siècle, pour le fameux Talmud de Jérusalem, pour le Talmud de Babylone, ça va se tenir entre le 3e et le 6e siècle. Et tous ces commentaires vont être complétés par la suite, la Gemara, la Braïta, les Géonim, les Tosafistes, vous savez qu'il y a toute une ligne, et les Tosafistes sont contenus très tard, puisque nous avons eu à Chambéry un Tosafiste célèbre, qui a donné son nom à notre synagogue, qui s'appelle Yosef Kolon, qui est parti avec l'expulsion des Juifs de Chambéry en 1460. Ces textes juifs, ils associent un élément narratif, c'est la Haggadah, le récit, et des éléments législatifs, c'est la Halakha dont j'ai parlé tout à l'heure. Le terme de mitzvot, ça vient du verbe hébraïque tzav, qui veut dire commander, ordonner, mais quelque part, dans la tradition juive, mitzvah, c'est beaucoup plus qu'un ordre, beaucoup plus qu'une jution. Il s'agit de quelque chose qu'on peut définir comme une obligation. Mais au sens où Barbarin, et là c'est facilement de le lire, va le dire. Barbarin dit, mais en fin de compte, une mitzvot. C'est comme le obrigado des Portugais, en fin de compte. Je suis obligé, mais dans une forme de civilité, dans une forme de discours tout à fait bénin et tout à fait interhumain. Et j'ai bien aimé, moi, cet apparentement-là. Donc pour nous, c'est une suggestion, c'est un choix proposé, une opportunité, mais elle a aussi valeur de précepte et de pédagogie. Le plus souvent, dans cette dimension éthique, la mitzvah n'a pas de valeur coercitive. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition. Alors on les divise, c'est intéressant de savoir si on vous l'a jamais appris, il y a deux types de mitzvot, il y a des mitzvot des oraïta, qui sont d'origine divine, et il y a les mitzvot des rabbanan, qui sont d'origine rabbinique, parce qu'on sait quand même tout à fait que cet énorme texte, cette série de textes, bon, elle a été écrite bien évidemment de main humaine, au cours des temps. Les mitzvot vont concerner l'opinion, c'est deot, les actions, maasim, l'éthique, midot, et la parole, dibour. Il y a 248 mitzvot positives, c'est les mitzvot assez, et 365 mitzvot négatives, tu ne feras pas. Bina bina, tu ne feras pas. Et c'est l'ota assez. Donc souvenez-vous que 335 comme les jours de l'année, 248, d'après le Talmud, c'est le nombre des parties du corps. Certaines de ces mitzvot concernent uniquement la terre d'Israël, c'est les mitzvot She'en Tluyot Be'Artsa, et d'autres le temps. Et les femmes sont dispensées des mitzvot qui se réfèrent à un temps défini, sauf si elles le veulent bien. Donc c'est, pour elles, c'est tout à fait facultatif. C'est ce qu'on appelle les mitzvot She'Azman German. Les mitzvot sont obligatoires à partir de l'âge de 13 ans pour les garçons, de 12 ans pour les filles. C'est pour ça qu'on appelle la communion chez les juifs bar mitzvah pour les garçons, bat mitzvah pour les filles, parce que nous devenons à 13 ans fils de mitzvot. Et les filles deviennent filles des mitzvot. Enfin, ces lois, elles sont de quatre espèces. Vous allez voir qu'elles concernent beaucoup. Il y a des torot, c'est des doctrines et principes. Les choukim sont des décrets, les mishpatim ce sont des décrets légaux, et les évotes et les témoignages qui vont régler les relations d'un homme à Dieu, c'est les mitzvot Adam le Makom, et les mitzvot vis-à-vis des autres hommes, Ben Adam le Chaver. Voilà, c'est un peu complexe, mais il fallait quand même revenir à ça. L'histoire a réduit ces mitzvot. Depuis la destruction du temple de Jérusalem, les mitzvot qui étaient dévolus à la terre d'Israël ont disparu, au point que maintenant, il n'y a plus 613 mitzvot, mais 270, 48 positives et 222 négatives. En fait, ces mitzvot sont à l'origine d'une manière de vivre qui s'étend à tous les aspects de la vie de l'homme dans le temps et l'espace. Elles font de la Torah non seulement un code religieux, mais un code social, mais essentiellement, comme le rappelle souvent Marc Alain Watmin, toute une théologie du rapport à l'autre. Et avant de parler d'éthique à laquelle je vais venir, je rappelle cette superbe phrase de Lévinas qui disait « Le visage de l'autre avant la Torah ». Pour vous dire que je vais venir à l'essentiel de mon propos, car l'éthique juive. Quel est l'état de la pensée éthique au Moyen-Orient à l'époque du judaïsme? C'est une synthèse d'une part, et fabrique ses inventions nouvelles, qui sont celles du monothéisme, insuffle une intelligence renouvelée du rapport à l'autre, s'interroge sur le projet divin, et crée par là un courant de pensée qui va durer jusqu'à maintenant, à travers le christianisme, bien sûr. Au niveau de l'Égypte, on a sommé énormément de travaux littéraires qui ont rapport à l'éthique. Bon, il y a les livres de sagesse, il y a les proverbes, qui sont censés donner aux jeunes garçons une connaissance des mécanismes sociaux et du comportement social. Il y a les biographies idéales, les biographies qu'on trouve sur les obélisques, sur les murs, où on dit qu'il a été très gentil avec les esclaves, il a libéré ses ennemis, il a fait la justice, il n'a pas du tout été homosexuel, on s'est marqué dans la pierre, on rappelle ça. Il y a les livres des morts, où les gens emmènent un document pour bien prouver au Dieu qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas été méchant avec sa femme, qu'il n'a pas frappé les pauvres. Et on s'aperçoit que cet ensemble de contextes est très loin d'une notion de péché, de récompense, de rétribution. Elle établit pour l'Égypte ce qu'on appelle le concept du ma'at. Le ma'at est un concept surtout social. Il fallait que l'individu soit dans un monde de vérité, d'honnêteté, de justice et d'ordre. Il fallait qu'il ait un bon comportement social. Il ne fallait pas qu'il ait peur du péché, parce qu'il avait peur des punitions pour les plus fautifs. Il ne fallait pas qu'il ait peur de la mort, quelque part, il fallait qu'il soit un très gentil petit citoyen. Ça, c'était pour l'Égypte. Pour Sumer et Akkad, on a des codes. J'ai relevé le code de Nipitisha, code des lois pour Sumer, où il parle de la justice, de la légalité, le prologue d'Amourabi, que vous connaissez tous, où il affirme la justice sociale dans les pauvres, l'orphelin, l'aveugle, les plus faibles. Quant à la morale sexuelle, elle pourrait sembler paradoxale maintenant, puisque la prostitution est légale, l'inceste reste banni, de même que la bestialité. Les rites de pardon, qui est le d'éthique, et ce sont des pratiques magico-religieuses, par contre, on trouve des tablettes qu'on appelle les omens, où on a des maximes, des proverbes qui disent « si quelqu'un fait du bien, on le lui rendra » ou des choses comme cela. Donc les omens viennent tempérer un peu l'histoire d'un monde qui est quand même un monde relativement loin de notre époque. Pour le royaume d'Ougarit, le devoir du roi est de protéger les citoyens, c'est tout ce qu'on connaît. Quant aux Hittites, ils avaient une civilisation relativement barbare, ils condamnaient que l'inceste. Ils permettaient la bestialité, ils permettaient l'homosexualité, c'est assez extraordinaire. Donc on devine que les dieux de Mésopotamie, où est né le judaïsme, n'étaient pas éthiques, n'étaient pas moraux. Les hommes étaient créés pour les servir, mais on n'était pas du tout certain que les dieux étaient justes et bons. La peur de Dieu existait, mais la nature du péché, elle n'était absolument pas définie. Donc je dis quelque part, c'était un espace totalement libre. Dans la Bible, quand elle apparaît, il n'y a pas de mot qui dit éthique. Le mot qui s'apparente le plus à l'éthique, c'est le mot mousar, qui veut dire morale, et qui est plutôt de nature éducative. En fait, pour la tradition juive, l'éthique, c'est la connexion étroite entre les règles religieuses et éthiques, qui en fait la singularité, et qui explique l'influence de la Torah décisive sur les modèles éthiques européens et sur le christianisme. Les sources dans la Bible de ces lois éthiques, elles sont multiples, et vous les connaissez bien, pour aller très vite, tous les prophètes, bien évidemment, les psaumes, Lévitique 19, Deutéronome, les 10 paroles, bien sûr, les 10 commandements, le Talmud, Borachot, Kiddushin, Nazikin, Nashim, tous ces ordres. Vous savez que le Talmud, c'est quelque chose qui est énorme. Il y a 6 ordres et il y a 63 traités dans le Talmud. Et là, j'évoque 4 de ces traités qui sont consacrés à des notions d'éthique. C'est absolument colossal. Mais on va trouver aussi des enseignements éthiques dans Job, bien évidemment, et je sais que les chrétiens sont passionnés un peu par cette histoire de Job, on en a beaucoup parlé dans les produits sur la souffrance, et aussi dans les bénédictions et les serments du mont Gézirim et du mont Tébère. Donc vous voyez, c'est très vaste. Que propose cette connexion extraordinaire de lois et de recommandations éthiques? Tout d'abord, une éthique individuelle. Tout d'abord, l'exigence de sainteté. Soyez saints parce que je suis saint. Et quelque part, tout ce contexte, ce rapport à son propre corps, relève de ça. Non seulement la sacralisation du corps, non seulement son caractère inaliénable, son caractère hors commerce, le respect absolu qu'il faut lui réserver, qui interdit, sauf accord, la mutilation, la greffe, permise maintenant, bien évidemment, mais qui à cette époque-là interdit toute mutilation, toute amputation, tout tatouage, toute scarification chrétienne, rituel sur le visage. Et donc, tout ceci relève de cette idée qu'il faut être saint parce que Dieu est saint. Et parce que la principale demande, c'est celle de l'accès, justement, l'élévation de cette sainteté. Participe, bien évidemment, aussi à cette accession à la sainteté, toutes les lois d'hygiène, bien évidemment. Je racontais, lors d'un travail que j'ai fait sur l'histoire des villes de Chambéry, qu'une des raisons des grands pogroms à l'époque de la peste noire, c'était le fait que les Juifs étaient moins touchés que les chrétiens de Chambéry. Donc on dit, c'est eux qu'on va y aller. Or, ça vient tout de choses très très simples. Toute la journée, nous faisons la bénédiction à Netilat Yadayim. Les Juifs se lavent les mains absolument toute la journée. L'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire est une obligation de la tradition. Donc, sainteté du corps, l'alimentation, bien évidemment. Dans quelques temps, je vais faire à l'archevêché de Chambéry une conférence, ce sera au printemps, à Madrid, sur la casseroute comme humanisation du monde. Cette invention de la casseroute qui est non seulement l'invention d'une première macrobiotique, non seulement l'invention des premières règles écologiques de respect du monde naturel, ce rapport un petit peu à la création que Dieu a donnée à Noé, dans des termes extrêmement précis, mais également fait partie de cette sanctification de la nourriture. Depuis la destruction du temple, la table familiale pour le juif est un autel. Ce qui s'y fait relève de la prière et de l'accession à la sainteté. Tous les gestes qui s'y font relèvent d'une élévation de ce qui s'y trouve du domaine de la sainteté. Élévation conjointe des juifs pratiquants et de ce qu'ils mangent. Le juif n'est pas ce qu'il mange. Mais quelque part, ce qu'il mange participe à cette élévation vers la sainteté. De même, toujours dans cette exigence individuelle, la sexualité. Ça devait être une conférence à soi seul. C'est la nature même de la conception de Dieu, la sexualité, c'est extraordinaire. Les rabbinim du Talmud connaissaient parfaitement la sexualité féminine et masculine, connaissaient les désirs et souhaitaient remplir, accomplir ce désir dans un cadre particulier. Ils avaient déjà séparé sexualité et procréation très tôt. Et de la même manière qu'ils avaient intégré la sexualité féminine au point de considérer la non-satisfaction d'une femme comme un cas de divorce, au point d'interdire à un jeune marié de faire un voyage de plus d'une semaine pendant sa première année de mariage, au point d'imposer à un homme qui se mariait de parler à sa femme avant de lui faire l'amour et de lui parler après. Je veux dire quelque part, c'est des gens qui savaient très bien de quoi ils parlaient. Mais tout ceci, comme les règles d'impureté de Nida, il y a une très très jolie, une très très belle, très belle analyse et une belle exégèse des lois de pureté juive. Que disaient les rabbinim comme Rabbi Akiba, Rabbi Meir sur ce problème de Nida, d'impureté temporaire des femmes? Ils disaient que c'était pour la femme, après les 8 jours interdits suivant ses règles, après qu'elle ait fait son bain au mikveh, apparaisse devant son mari comme si elle sortait de la choupa, du dénuptial. C'était un nouveau mariage. Et les pensants contemporains disent, et c'est extraordinaire, on demande à ces juifs, tout simplement, de considérer leur femme au moins 8 à 10 jours par mois non pas comme des partenaires sexuels, mais comme des partenaires d'un dialogue. En mettant à part la sexualité, on peut parler à sa femme comme à un être qui vous est égal. Moi, je trouve que ça peut être très conforme aux théories psychologiques contemporaines. Donc voilà comment la sécurité s'intègre dans cette étude juive, tout simplement parce qu'elle procède de la sanctification. Dans la tradition juive, pourquoi l'adultère est-il réprimé? Dans les traditions mésopotamiennes, on réprimait l'adultère, pourquoi? Parce que l'adultère portait atteinte au bien mobilier d'un mari. C'était sa fortune qu'on entachait. Dans la tradition juive, le mariage était tellement appelé kiddushin, sanctification. Je veux dire, c'est Dieu qu'on trompe. Quelque part, c'est beaucoup plus grave que cela. C'est l'idée même du couple qu'on trompe. C'est l'idée même de l'amour qu'on trompe. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même domaine. Donc, sanctification de l'amour, même de l'amour physique, mais dans un cadre très précis, qui est celui d'union stable et d'union respectueuse. Même si les rabbins comprennent que le désir passe avec le temps. Il y a quelque part, tout ceci procède encore d'une éthique de sainteté et de sainteté personnelle. Le personnage éthique essentiel, c'est le tzaddik. Vous avez déjà entendu ce nom-là. C'est un homme qui se définit par ses bonnes actions, par son habitude, son allure personnelle et son allure. Il y avait un texte que j'ai lu qui est très très drôle sur qui est rapporté par Arnold Mandel qui disait à un yeshiva, un élève de yeshiva, il dit donc, pourquoi est-ce que tu es tout le temps folle ton rabbin? Pourquoi ça t'intéresse beaucoup de le voir manger sa pomme? Et le jeune lui disait, mon rabbin est un tzaddik, je veux voir comment il attache ses lacets. Je veux dire que quelque part, toute cette personne relevait d'une révérence et d'une exemplarité parfaite. Et le premier tzaddik, l'idéal, c'est Abraham, et qui est Foulil, je crois que pour nous, on est tous les deux des adeptes de notre Ibrahim Abraham, puisqu'il est notre père à tous. Il a été compatissant avec autrui comme il était avec Lot, il a été hospitalier et compatissant avec les pécheurs de Sodome, il a été humble et généreux avec les gens de Crète, il a refusé le partage du butin de la guerre d'Amraphel. Voilà pour l'éthique personnelle, mais elle est doublée bien évidemment d'une éthique sociale. Je ne reviendrai pas sur cet échange qu'on a eu ensemble sur l'éthique du 19, sur l'amour du prochain. Et j'en dirai simplement deux petites choses du point de vue analyse exégétique, parce qu'il faut quand même les rappeler. Quand le texte dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est encore la traduction de Septante. L'hébreu parle de réacha, qui veut dire deux choses. Ça veut dire, comme l'a très bien montré en Vénère, tu aimeras ton lointain comme toi-même, parce que le prochain, c'est très facile de l'aimer. Sa femme, ses enfants, son meilleur ami. Le lointain, c'est plus difficile. Et l'hébreu, si vous en faites, il va beaucoup plus loin. Réach, en hébreu, qu'est-ce que c'est? C'est l'odeur. Tu aimeras même celui qui pue. Tu aimeras celui que tu ne peux pas sentir, comme on le dit en français. Donc voilà comment il faut traduire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc lire faire l'hébreu, ça mène très très loin. Outre cette nécessité d'aimer son prochain comme soi-même, il ne faut pas oublier la suite de cette Lévitique 18-19. Il dit ça, tu aimeras, réachera ton prochain ou ton lointain comme toi-même. Je suis l'Éternel votre Dieu. Tu l'aimeras parce que je suis ton Dieu, mais je suis aussi son Dieu. C'est-à-dire, en lui, tu aimeras moi. Tu aimeras Dieu en ton prochain. Donc, c'est très fort comme nécessité, comme obligation, comme mitzvah éthique dès le départ. Interdiction de faire souffrir autrui. Et qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal, et dans les lois noires, déjà, il y avait l'interdiction de consommer la viande d'un animal vivant. On ne commence pas Shabbat sans avoir soigné ses animaux. On n'a pas le droit de commencer Shabbat dans cela. Parce que quelque part, tout ceci participe d'une économie générale. Je vais y venir tout à l'heure pour les esclaves dans la tradition juive. On ne sait pas ce que j'ai écrit. Et je rappelais, je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, cette très belle interdiction du sepitat d'Amin, l'effusion de sang. L'effusion de sang, c'est pas assassiner quelqu'un. Le Talmud dit que celui qui fait rougir un de ses concitoyens en public ne mérite pas le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'une humiliation publique à quelqu'un est un péché mortel dans la tradition. Et je vais plus loin. Le rapport à l'ennemi, par exemple, est assez extraordinaire, puisque le Talmud lui-même dit, si tu es en train de battre ton animal et que tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, ton ennemi, couché sous son âme parce que le bas lui est tombé dessus, va d'abord relever le bas de ton ennemi. Et Maïmonide dit une très belle phrase. Il dit, nous enterrons leur mort. Nous consolons leurs veuves. Nous soutenons leurs orphelins. Et nous restaurons leur richesse. Quelle belle leçon à prononcer actuellement sur la terre d'Israël. Ceci pour le rapport aux autres. J'en viens à quelque chose de très fort, parce que tu as parlé tout à l'heure de cette venue des temps messianiques, qui seront basées essentiellement sur ce propos, c'est l'exigence de la justice. N'oubliez pas que dans la tradition juive, le même mot, tzedaka, veut dire charité et justice. Parce que pour la tradition juive, la justice et la charité, c'est la même chose. Et parce que la charité n'est que justice. Vous savez qu'on ne va pas à Kippour sans avoir remboursé ses dettes. Et vous savez que lors du fameux jubilé du Yuval, tous les 49 ans, toutes les dettes sont remises et toutes les propriétés sont annulées. Parce que le Talmud le disait déjà. Bien avant Marx, la propriété, c'est le vol. Tout appartient à Dieu, il y a quelque part. Donc, ceci existe là. Et ce qui explique que dans Deutéronome 4.8, on puisse dire « Quelle autre grande nation a des lois et des normes aussi justes comme tout cet enseignement ?» De la même manière que pour l'évocation des temps messianiques, Deutéronome dit « La justice, la justice, la justice, tu la suivras. » Je veux dire, quelque part, c'est important. Et on peut le voir très reflété dans, toujours dans l'éthique sociale, vis-à-vis du rapport à l'esclave. L'esclave, dans la tradition juive, c'est quelque chose de très spécifique. C'est quelqu'un qui se... C'est pas un esclave étranger qui a été rasié par une guerre. C'est quelqu'un qui s'est donné à un maître pour rembourser ses dettes. Et qui doit impérativement être libéré tous les 7 ans. Lorsqu'il y a une année sabbatique pour... Hein, c'est pas pour les leaders d'entreprise, c'est pas pour les chercheurs, c'est pour la terre, cette année sabbatique. Et lorsqu'il y a une année sabbatique, les esclaves sont libérés, sauf s'ils refusent de partir. S'ils refusent de partir, ils restent. Mais ils sont obligatoirement libérés au jubilé, à 7.7, à 40 ans. On ne peut pas garder un esclave au-delà. Mais cet esclave, il a un statut dans la tradition juive extraordinaire. Que dit le Talmud ? S'il y a un oreiller dans la maison, il n'est pas pour le maître, il est pour l'esclave. L'esclave fait Shabbat avec ses maîtres, bien évidemment. Et l'esclave est assis à la table de ses maîtres. J'ai dit, son statut est un statut d'égalité. L'esclave fait Shabbat avec ses maîtres. Parce que cette liberté de faire avancer la conscience humaine qu'est le Shabbat, c'est arrêt du temps pour le rebâtir, comme dit Abraham Yoshua Echel dans les bâtisseurs du temps, appartient également à l'esclave, tout à fait à égalité avec son maître. Donc voilà des notions particulières sur l'éthique sociale. J'en viens à l'histoire un peu de ces pensées éthiques. Il faut être, dit le judaïsme, à l'image de Dieu. L'intuition juive est que Dieu est juste et bon, et que la récompense et la punition relèvent de cette intuition. Les valeurs éthiques sont donc non seulement un principe, mais un but, et cette évolution dynamique explique une interprétation différente dans l'histoire des valeurs de l'éthique juive. Et ça, c'est un débat qui est tout à fait passionnant et contemporain. C'est à ça que je l'ai dit, c'est ce qui m'intéresse le plus. La première identification d'éthique dans la tradition juive, c'est ce qu'on appelle la voie moyenne. C'est une voie qui est prônée par des textes que vous connaissez bien, c'est toute la pensée juive hellénistique, toute la pensée juive palestinienne, hein, à l'époque des Asmonéens, et cette pensée portée par les Tzoumets et les Prayas, c'est la voie moyenne. Elle lutte, elle est en tension avec une autre pensée, qui est une voie extrême, qui est la voie vers la sèse, qui est une voie d'exigence. Il vient de tout à l'heure. Et puis, les penseurs contemporains actuellement pensent que le judaïsme transcende ces deux cadres. Le cadre de la voie moyenne, le cadre de la voie extrême. Et que le débat entre le bien et le mal, cette problématique du mal, ne peut être comprise que si la pensée transcende les valeurs classiques dans une nouvelle catégorie que Echel, lui encore, appelait une métaéthique. Car les exigences divines qui sont révélées peuvent sembler contradictoires. Et on va le voir tout à l'heure, et ça laisse tout à fait en suspens les notions, je l'ai dit, du bien et du mal. Pourquoi Auschwitz ? Pourquoi la douleur ? Pourquoi la souffrance ? L'évolution de cette pensée, au Moyen-Âge, je viens avec personnes que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, Saadia Gaon et Salomon Ibn Gabirol, qui écrivent en arabe, je veux dire. Les deux écrivent en arabe. Tikkun Midod Anefesh, ils exposent une éthique qui est déjà une catégorie indépendante de la religion. Comme Maïmonide d'ailleurs, qui lui aussi a écrit les trois quarts de son œuvre en arabe, dans les chemins d'Aterakim, les huit pièces, qui a des liens avec la pensée d'Aristote déjà, et il affirme que la pensée juive, dès le départ, est une pensée qui est d'abord éthique, quelque part. Un peu plus tard, Moïse Mendelssohn, qui lui est très proche de Kant, place l'éthique au centre absolument de sa conception de l'univers. Vous savez, Mendelssohn, c'était le grand philosophe juif de la Haskalah, des Lumières. Au XIXe, des théoriciens comme Maurice Lazarus écrivent déjà l'éthique du judaïsme, Ethicus des Judaismus. Et le fameux Elias Moselle dont j'ai parlé tout à l'heure, fin du XIXe, va écrire Morale juive et morale chrétienne. Où se place Spinoza dans tout ça? Et bien, il semble que dans le Tractatus philosophico-religieux, il est très proche de la pensée de Maïmonide. Par contre, dans son éthique, lui, il s'en écarte absolument radicalement. D'autres travaux reflètent une expérience individuelle et collective, par exemple la Kabbale hellénistique, une voie vers la mystique, et je citerai les Devoirs du cœur de Baha'i Impakuda, le Sefer Hasidim, le livre de Hasidim, et l'italien Chaim Luzzatto, Messilat Yosharim, c'est-à-dire les chemins de la droiture, et qui porte une tendance qui est populaire chez les Hasidim jusqu'à l'époque du XIXe en Pologne, avec le Hasidim du Becht, mais également chez leurs opposants, chez les Minnadim. Et Rav Israël Lipkin Salanter, qui était un orthodoxe du XIXe, réintroduit l'enseignement de l'éthique dans la toute l'orthodoxie juive et dans les séminaires juifs. Donc quelque part, vous voyez cette préoccupation de tout temps, elle est constante. Donc je disais que la voie moyenne, elle est conforme un peu à l'idéal philosophique, un peu stoïcien sur les bords, qu'on va trouver à l'époque hellénistique palestinienne, dans les psaumes, dans les proverbes. Elle recommande la modération, elle condamne l'excès dans le mal comme dans le bien, elle rejette le jeûne, la gloutonnerie, la débauche, l'abstinence, la jouissance et l'ascétisme, l'impiété et la bigoterie, c'est la voie de Maïmonide depuis toujours, bien que parfois il se laisse tenter à des voies qui sont plus mystiques et plus ascétiques. Je te rappelais hier que les deux petits-fils de Maïmonide sont devenus soufis. Donc cette tendance à l'ascétisme va suivre la famille Maïmonide très très longtemps. De la même manière, quelqu'un que vous connaissez bien qui est passionnant, le Maharal de Prague, Rabbi Loew de Prague, celui qui a inventé le golem, et vous connaissez son élève extraordinaire, David Gans, l'astronome extraordinaire également, eh bien, ils avaient monté une espèce de schéma avec ordonnée et abscisse en disant l'éthique juive, elle est au milieu. C'est la transversale, c'est une courbe qui est là. Je dirais que c'est un peu la majorité des juifs qui fonctionnent comme ça. Par contre, des textes violents, comme Job, comme l'Ecclésiaste, vont, et le Talmud, vont condamner sévèrement cette voie moyenne. Que dit le Talmud? Ce qui est mien est mien, ce qui est tien est tien, c'est la voie moyenne, c'est celle de Sodome. Parce que, chers amis, si Sodome a été brûlé, et c'est pas du tout parce que les gens avaient des mœurs contre nature, ça n'a rien à voir, ça c'est une fumisterie extraordinaire, c'est tout simplement parce que ces gens ne partageaient pas. Parce que quelque part, ils avaient déjà la morale libérale. On a Sodome, le feu du ciel, a détruit Wall Street. Il a détruit le libéralisme définitivement avec Sodome. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe maintenant, c'est la même chose. Mais je veux dire que quelque part, cette notion qu'on ne partageait pas avec un étranger, avec des pauvres, le Talmud rappelle que ces gens ne laissaient pas les glaneurs dans les prés. Ils ne respectaient pas l'interdiction de moissonner les coins des champs. C'est-à-dire les gens de Sodome étaient des gens d'affaires et pour lesquels ce qui est mien, ce qui est tien, est tien. Mais le Talmud dit, c'est ça la voie moyenne. Donc c'est la voie bourgeoise, c'est la voie tonne. Avot 5, 13. Déjà, cette tendance un petit peu à l'exigence ascétique, on la connaissait en tradition juive, c'est le naziréa. Vous vous souvenez du nazir. Shimshon, Samson, était un nazir. C'était des gens, avant qu'ils ne naissent, leur maman allait voir le rabbin en disant, écoute, on sait bien que chez nous, on n'a pas le droit d'aller au désert, on n'a pas le droit d'être ermite, anachorète, on n'a pas le droit de se séparer de la communauté. Mais pour mon petit, je sens que ça va être un génie. permets-lui d'être nazir. Alors, le rabbin disait, pour quelque temps, ton fils sera nazir. C'est la maman de Shimshon avait fait. Et Shimshon avait les cheveux longs, il ne buvait pas de vin, et il ne devait pas s'approcher des femmes. Et on lui permettait cette forme d'assaise par rapport au peuple, à la condition qu'il respecte les engagements. On a lu récemment, aux Amitiés judéo-chrétiennes à Chambéry, à Vivre Ensemble, un très beau texte sur l'appel de Dieu à Samuel, la prophétie donnée à Samuel. Samuel était un nazir. Hein, il va cesser d'être nazir pour devenir prophète. Donc sa mère aussi l'avait consacré à Dieu. Donc cette forme d'assaise existait. Et certains sages du Talmud lui-même ne respectaient pas cette ligne médiane. Et j'ai prouvé, par exemple, que Rabbi Yeshabab a donné toute sa fortune aux pauvres. Il s'est démuni. Ben Azaï était resté célibataire. Hanina, dont j'ai parlé tout à l'heure, priait toute la nuit, et sa morale personnelle, c'était celle des Esséniens. Il avait retrouvé la saisie des Esséniens au plan sexuel, au plan alimentaire et au plan vestimentaire. Et le thème de la saisie est central dans le Sefer Hassidim des Hassidim anciens. Par exemple, les Hassidim allemands du Moyen-Âge vivaient dans une saisie absolument totale. Et qu'on va retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette tendance extraordinaire à la saisie des Hassidim d'Europe centrale, pour lesquels la saisie est un moyen d'accéder à ce contact suprarationnel à Dieu, ce contact mystique, qui passait par une forme d'embrasement, qu'ils appellent le Hitlarvut, et une identification, une union mystique, qu'ils appellent le Hitbodidut, et surtout par l'extase. C'est-à-dire pour eux, la cesse menée de l'extase. Donc vous voyez cette tension entre ces deux formes. Maintenant, j'en viens à cette idée qui me semble très moderne de cette métaéthique qui va coiffer un peu ces deux choses et qui répond à des questionnements contemporains. Et j'ai écrit le concept de sainteté s'affirme comme une catégorie transcendantique au-delà du bien et du mal. La transcendance de Dieu élève la sainteté au-dessus de l'équité morale garantie par l'Alliance. Comment on retrouve ceci? Eh bien, Isaïe, qu'est-ce qu'il dit Isaïe? Il dit « Parce que mes pensées ne sont pas tes pensées, aucun de tes chemins ne sera mon chemin. » Donc déjà, il y a déjà une fin de non-recevoir. Il y a quelque chose chez lui qu'on ne peut pas comprendre. Et on le trouve illustré de façon extraordinaire dans le Talmud par le récit des demandes que fait Moïse, le premier des grands prophètes, à Dieu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Trois choses. Il dit « Dieu, 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 si on est gentil, si on respecte la Torah, dis-moi, 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 est-ce que tu vas résider parmi nous ?» C'est la chair humaine, ce qu'on appelle en version romane la théodicée. Est-ce que tu vas résider? Oui, Dieu, je vais résider parmi nous. Dieu, Dieu, chez nous, pas chez eux. Ils nous réservent, hein. Nous, on est ton peuple. Oui, oui, Dieu, vous êtes mon peuple. Si vous faites ce que je dis, vous êtes mon peuple. Je vous choisis comme peuple. Je marcherai dans vos rangs. Après une question de Moïse. Dieu, Dieu, révèle-moi tes voies. Dis-moi tes projets. Dieu dit, je donnerai ma grâce à qui je la donnerai. Nouvelle fin de mon recevoir. Ce questionnement-là permet quand même d'essayer d'interpréter quelque part ces problèmes qui sont la souffrance, qui sont les problèmes de privation de liberté, qui sont les problèmes du mal sur cette terre, et qui sont ces problèmes, prenez Auschwitz par exemple, comment est-ce qu'on peut accepter de croire en Dieu et accepter également Auschwitz? D'abord, la première chose qu'il faut dire, il ne faut jamais dire que Auschwitz est quelque chose d'inhumain, quelque chose qui a été fait par des hommes. Ça montre l'extrême limite où la déshumanisation peut aller. Auschwitz, ce n'est pas un problème divin, c'est un problème humain. C'est-à-dire c'est quelque part le bout du bout du mal qu'un homme peut commettre. Le questionnement également sur cette espèce d'incapacité à comprendre, c'est sur le don de prophétie. On vénère à des textes très importants, comme Maïmonide, sur ce pourquoi certains sont dotés d'un don de prophétie, alors que les autres parfaits n'en sont pas dotés. Pourquoi les prophètes sont-ils ce qu'ils sont? Certains sont une lâcheté absolue, certains boivent, certains sont bêtes, certains sont pas très corrects dans la vie, certains ont des attitudes un peu extraordinaires. Hoshea, Osée, eh ben, il y est une prostituée. Isaïe se promène à poil, il est nu absolument tout le temps. Jérémie reste célibataire. Donc, quelque part, il y a des choses que nous ne prenons pas compte. Ces gens reçoivent les noms de la folie. Autre incompréhension. Le Midrash, qui est assez avancé sur la pensée contemporaine, eh bien, il va expliquer Job, il va expliquer la mort de Saül, le sacrifice d'Isaac, de façon qu'il sera beaucoup plus proche de l'existentialisme contemporain, de Kierkegaard ou de Kafka, que de Maïmonide de Kant. C'est-à-dire, quelque part, le Midrash admet cette espèce de pas d'incertitude. Et au XXe siècle, enfin, des penseurs inventent ce concept d'insécurité radicale. Et c'est les deux penseurs qui ont cette intuition-là, ce sont Martin Buber et Franz Rosenzweig, qui réintègrent, grâce à Martin Buber, la théorie de Luria sur le retrait de Dieu. Vous vous souvenez de la théorie de Luria sur la brisure des vases qui permet la création du monde, et sur cette espèce d'incurvation du monde que fait Dieu pour faire une place à l'homme. Un retrait partiel de Dieu faisant cette place à l'homme. Et Luria propose, pour la fin des temps, du temps messianique, il nous demande à nous, hommes, de faire ce tikkun, de faire cette réparation du monde, de restauration de l'unité. Donc, revisité par ces théories de Luria, ces penseurs établissent ce concept de l'insécurité radicale de l'espèce humaine qui est directement lié à notre libre arbitre. C'est parce que Dieu s'est retiré que nous sommes libres. Et c'est parce que nous sommes libres que nous sommes dans cet état d'incompréhension et d'insécurité radicale. Et il ne faut pas aller plus loin que le Talmud pour retrouver cette phrase que je trouve d'une modernité absolue. Que dit Talmud ? Il dit « Kulei chai ve ulai ». En hébreu, quand on traduit, c'est « tout ceci vit, tout ceci c'est la vie, mais peut-être ». Cette incertitude existe déjà chez les maîtres du Talmud. Malgré tout, on y reviendra bien sûr parce qu'il faut en parler longuement, cette méta-éthique pour Eschel reste éthique car elle ne conduit jamais au pessimisme. La divine transcendance, pour ce penseur, ne perturbe l'équilibre éthique que pour demander à l'homme de la restaurer, et justement par quoi ? Par l'application des mitzvot. L'insécurité, comme je l'ai dit, c'est le prix de la liberté et c'est aussi l'essence inaliénable de l'alliance. En conclusion, moi, j'aurais aimé vous présenter une forme académique de conclusion, comme on l'a tous fait en philo, thèse, antithèse et synthèse. On va peut-être commencer par là. Le Talmud nous propose parfaitement ce schéma de discussion, parce qu'il l'a fait déjà, entre la primauté de la loi et la primauté de l'éthique du rapport à l'autre. Et le Talmud nous dit, eh bien écoutez, nous avons trois personnes qui sont l'exemple même de ce débat. Vous avez Abraham, qui est l'amour absolu, l'amour total. Et on s'aperçoit qu'Abraham, qui est l'image même du chassid, de l'homme bon, d'un bout à l'autre, du tzaddik, de l'homme qui accomplit bien sûr également toutes les mitzvot, de la première épreuve, les 10 épreuves, le bûcher d'Our Kasdim, jusqu'à la dernière épreuve de sacrifice d'Isaac, réagit toujours en fonction de son amour absolu des hommes et de Dieu. Au point qu'il va aller jusqu'à, dans l'incompréhension totale qu'il a des voies de Dieu, jusqu'à accepter implicitement de sacrifier son fils, tout en l'aimant quelque part. Et Dieu doit lui rappeler qu'il n'a rien compris, que ça signifie tout simplement l'interdiction à jamais des sacrifices humains, mais que surtout, dans l'amour le plus absolu, il fallait ce que les savants du Talmud appellent le midat nefesh. La mesure de l'âme. L'amour n'est pas infini, il mérite une midat nefesh, une mesure de l'âme. Son fils Isaac qui tout le long de l'éligature, souvenez-vous de l'éligature, dit, est-ce que papa il va être à la hauteur? Est-ce que papa il va faire tout ce que Dieu lui demande? Je souhaite qu'il le soit, pour qu'il aille jusqu'au bout, pour qu'il me sacrifie. Isaac, c'est le légaliste absolu, et ça va lui jouer des tours. Dans l'acquisition de biens, de troupeaux, de l'eau, d'une terre, d'une femme, chaque fois, il va, de façon obstinée, de façon complètement incessante, rappeler son droit en permanence. Isaac, c'est le légaliste absolu. Et il va être aussi légaliste qui va donner le droit d'aînesse à un voyou qui est son fils aîné, en le sachant que c'est un voyou, que c'est un homme du parti de Nemrod, d'un homme du parti d'Amalek. Je veux dire, quelque part, c'est quand même un homme mauvais, mais parce que c'est son droit, le droit d'aînesse. Et il va accorder sa bénédiction à qui encore? Eh bien, à Ésaü encore. Et il faut que Jacob utilise un subterfuge pour lui voler la bénédiction. Parce que Isaac est l'égaliste du second. Et que dit le maître du Talmud? Ben, Dieu lui rappelle que quand même, dans ce légalisme obstiné et brutal, il faut parfois mettre un tout petit peu d'amour. Et quelque part, la Midat Nefesh réintroduise un tout petit peu de l'amour dans tout ça. Et ma synthèse, bien évidemment, c'est Jacob. Et Jacob qui, quelque part, en son nom même, Israël, va représenter ces deux tendances. Qu'est-ce que c'est que Israël en hébreu? Eh bien, Israël, c'est l'homme qui a combattu Dieu après le combat avec l'homme. Donc, c'est l'homme qui a affirmé ses droits face à Dieu. Position éthique extraordinaire. C'est ma liberté, bonsoir, laisse-moi tranquille, tu m'as créé libre. Mais en même temps, Israël, c'est Ish Yachar à elle. C'est l'homme droit devant Dieu. C'est-à-dire, c'est l'homme qui va marcher droit. C'est l'homme qui, arrivant sur la terre d'Égypte, va. Son premier mot, c'est quoi? C'est Shema Israël. Face à l'idolâtrie, il dit tout de suite, je crois en un Dieu unique. C'est-à-dire, c'est l'homme de la légalité. Mais c'est aussi l'homme de l'amour absolu, parce que c'est un homme qui ne croit jamais à la mort de son fils. C'est un homme qui l'attend et pour lequel il est normal que son fils soit vivant. Donc quelque part, cette synthèse parfaite, les maîtres du Talmud la mettent dans ces trois personnages, Abraham, Isaac et Jacob, en disant, en fin de compte, c'est Jacob qui fait la synthèse. Pas par hasard qu'on l'appelle Israël, il fait comme lui. Mais je préférerais quand même terminer mon propos de façon peut-être un tout petit peu plus récente. Et j'avais souhaité vous lire tout simplement cette petite merveille que j'ai trouvée encore dans ce joli livre à propos justement de la part relative de la mitzvah de l'éthique dans la tradition juive. C'est le problème du désir. Et récemment, Claudie nous a donné à lire dans cette merveilleuse revue qui s'appelle Sens un texte étonnant, prophétique, qui s'appelle l'autoproduction de l'homme, qui montre comment actuellement la société de marché, cette société de laquelle les médecins sont complices, produit de l'homme, produit du mythe autour de l'homme, et réalise l'actuel tour de Babel. On fonce actuellement dans l'idolâtrie. Lisez cet article, il est remarquable. Il parle justement de la prééminence du désir dans la société et de la satisfaction du désir. Et de cette totalité que demande la saison du désir. Vous voyez, on n'est pas loin de Lévinas dans son texte « Totalité et infini ». Et voilà ce que dit Gilles Bernheim. Il y a là quelque chose de décisif dans la pensée juive. L'idée que la vie ne peut continuer de prospérer, je parle d'une vie soucieuse d'élévation, que si elle obéit à des contraintes. Loin de tout angélisme, le judaïsme, dans un premier temps, se méfie du désir, parce que sa pente naturelle est le narcissisme et l'autogratification. Spontanément, le sujet se met au centre du monde et veut prendre toute la place. Si tel est le cas, le monde n'est pas viable. C'est la domination des forces les plus faibles, c'est le règne de la brutalité, c'est un monde en deçà de l'humain, en deçà de l'éthique, la mort généralisée, sous quelque forme que ce soit. Le judaïsme se situe à l'opposé de cette vision. Et cela dès le départ, lorsque le peuple, après la sortie d'Égypte, ayant appréhendé que la vie sociale n'est pas possible sans une loi, a éprouvé le désir d'une constitution, d'une Torah. Et c'est alors que Dieu fit cette mise en demeure, que ce peuple qui désire une Torah sache porter très haut son désir d'élévation, qu'il n'en vienne pas à s'opposer à choisir les lois qui lui conviennent, rejetant les autres. À ce peuple, et à lui seul, il a été demandé d'emblée le plus ardu, la totalité du poids de cette loi, une vie éthique à honorer sans concession. Et sur ces mots que je voulais terminer, je termine aussi par cette phrase que nous prononçons à la synagogue d'hier après un Dvar Torah, c'est Uba de Tzion Goel, qu'un Messie vienne en ce monde.
Une grande nécessité pour tous de lire et de relire. effectivement, ça résume bien, effectivement, la loi chimique de qui, finalement, peut-être qui est injuste, qui peut vivre cela.
Oui, les pigus, c'est pas du peuple.
Alors, je pense que certaines personnes ont réagi, je souhaite qu'on va faire passer le micro pour que ce soit enregistré. Qui se lance sur les questions?
Sur la terre.
Revenir sur ce prix de la liberté dans ce chemin, dans ce cheminement spirituel, ce prix de la liberté qui se pose, une insécurité, hein, j'ai entendu ce mot, donc une insécurité, je suppose, morale, une insécurité spirituelle. Mais c'est quand même terrible. Je voudrais revenir là-dessus. Je comprends le lien. Mais nous avons tous, je pense, nous avons tous cette tendance, par l'alliance, quand même à rechercher le réconfort, l'assurance, le bien-être moral. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus quand même? Je sais que ça paraît comme ça évident, mais c'est terrible de se dire que ce cheminement passe par beaucoup de peut-être et pas si souvent par du bien-être et du réconfort.
Je veux dire, tu as très bien entendu le kulo chai v'oulai. Oulai, ça veut dire en hébreu peut-être. Moi, j'adore quand on met en résonance nos vieux textes avec la pensée contemporaine. Et on s'aperçoit que les interrogations étaient absolument les mêmes. Je te rappelle quand même deux choses. Lorsqu'on demandait au rédacteur du Talmud de dire, en fin de compte, messieurs, vous êtes là depuis, Rabbani, vous êtes là depuis très longtemps, d'écouter, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et l'un d'entre eux, Rabbi Zoudia, qui est célèbre pour d'autres phrases, leur a dit, écoutez, c'est pas compliqué. L'homme, c'est Adamma. L'homme, c'est quoi? C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui ne questionne pas, et qui ne se questionne pas, quelqu'un qui n'est pas dans l'insécurité, qui n'est pas dans l'inquiétude, parce que c'est pas un homme. C'est-à-dire que nous sommes créés pour poser des questions. Et on dit toujours que les Juifs, c'est le peuple de la question, c'est pas le peuple de la réponse. Hein? Et quand les Hébreux dans le désert reçoivent la manne, ils disent « Mazé », qu'est-ce que c'est? Et Moïse leur dit « Zeman », c'est la manne. Zman, en hébreu, c'est le temps. C'est l'ordre du Moïse. Eh bien, c'est le temps de la question. Je veux dire que ça, c'est le premier élément de réponse. La deuxième chose, l'interrogation d'Adorno, qui était juif, il le schématise en disant, est-ce qu'on peut encore écrire de la poésie après Auschwitz? Et lui, la première réponse, bien évidemment, elle est liée à ce que j'ai dit. Dans le ghetto de Varsovie, deux endroits sont restés pleins jusqu'à la liquidation. Les théâtres et les synagogues. Je veux dire que c'est parce qu'il y a eu Auschwitz qu'il faut faire de la poésie, écrire de la musique, faire du théâtre et prier. Je vois quelque part cette accession à la transcendance, cette idée même que Dieu est là et que quelque part il s'est retiré, qu'il est libre avec notre malheureuse liberté dont on ne sait pas quoi faire. Elle nous impose quoi, cette liberté? En permanence, le choix de l'élévation la plus éthique qui soit. Être le plus homme que nous pouvons. C'est de ça qu'il s'agit. Rajouter de la qualité d'homme. Dans la tentative de déshumanisation qui a été le nazisme, mais qui n'est pas exclusive. Hein. Les massacres du Darfour, les massacres des Soudanais, c'est d'abord on viole, on assassine, on tue l'essence des gens. Partout c'est comme ça. On assassine le Tibet dans son essence. Eh bien, il faut répondre à cela, justement parce que nous, ce que nous avons fait, par de la transcendance. Armand Mandel, que j'ai cité tout à l'heure, rencontre en 38 dans un train en Allemagne tout un groupe de chassidim. Il est très inquiet, lui. Il va se sauver. Il leur dit, écoutez messieurs, vous savez ce qui se passe? Vous savez qu'on va nous massacrer? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Et les chassidim lui disent, oh, ça fait rire, je vis aux éclats. Et ils lui disent, mais si on fait quelque chose, et que faites-vous, dit Armand Mandel? On récite les psaumes. Alors Armand Manuel, qui est un intellectuel français, rationnel, ils sont complètement tapés, ces types. C'est du gibier de camp de concentration. Pas vrai, il n'a rien compris. Je veux dire que quelque part, devant la barbarie, réciter les psaumes, c'est une arme plus importante que les antimissiles, quelque part. Je veux dire que quelque part, ça nous interroge en quoi la métaphysique. C'est un enjeu supplémentaire. Oui, nous sommes libres. Oui, nous sommes dans l'insécurité. Oui, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut là-haut. Il y a beaucoup de choses qu'il fait qui nous semblent à nous, avec notre petite morale complètement injuste. Mais ce n'est pas ce qui nous a créé qu'il faut rajouter ce surplus de sainteté, continue à nous élever. Et quand je dis nous élever, je considère à titre personnel qu'écrire une pièce de théâtre, écrire un poème, écrire n'importe quel texte profane, j'aime pas ce mot. Les Hassidim disaient qu'il faut profaner le sacré, mais il faut sacraliser le profane. Et je pense que quelque part un écrivain, un peintre, un acteur sacralise le profane et donne à notre existence cette dimension supplémentaire qui relève effectivement d'un messianisme actif. Voilà la réponse que je te fais. Donc il ne faut pas accepter cette insécurité comme une amputation de quoi que ce soit, au contraire, comme un don extraordinaire. C'est-à-dire que nous sommes libres, mais on est libre de mal faire ou de bien faire. C'est pour ça que j'ai rappelé qu'Auschwitz, c'était humain, c'était pas inhumain, ce sont des hommes qui l'ont fait. Ils le font tous les jours. Le peuple juif n'a pas l'exclusivité de l'Holocauste. C'est pas vrai. On n'a pas mis une marque déposée là. Aucun peuple n'a vocation au martyr. On est simplement un peu plus visible et plus exemplaire que les autres, non pas dans la qualité, mais dans notre histoire.
J'espère que ce sera très entendu parce que c'était une magnifique réponse, extrêmement entière, complète, dans le shalom, dans sa plénitude. Mais aussi peut-être la confiance. Moi, c'est le mot aussi qui m'est venu lorsque tu as dit tout ça. La confiance et la foi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, moi, tu m'as donné une réponse merveilleuse ce soir. J'avais peut-être vraiment besoin d'entendre ça par rapport à ce qui se vit actuellement. Et autre réflexion.
Et Yann.
Oui, pour moi, Albert, il y a deux parties distinctes, très distinctes. C'est la première, où tu abordes le problème actuel, et puis la deuxième partie, c'est donc les études. D'abord, je te remercie pour la clarté de ta position, c'est que ça fait chaud au cœur, c'est extraordinaire. J'informe simplement que, étant de la conférence mondiale, étant élu à la conférence mondiale des religions pour la paix, des amis, une Tunisienne et également un juif ont pris l'initiative dans les jours à venir de faire venir des Israéliens et également des Palestiniens pour pouvoir dialoguer. Et la deuxième partie, du chapeau. C'est, en tant que musulman, pour moi, c'est un régal de t'écouter. Mais il y a une question qui m'a toujours taraudé. C'est celle, parce que tu sais que je me suis intéressé aux juifs séfarades. Et alors là, je sais que dans l'histoire des juifs séfarades, il y a eu ces juifs qui étaient en Espagne et qui ont été expulsés, qui sont rentrés au Maghreb. Et là, il y a eu effectivement des difficultés d'intégration de part et d'autre. Les juifs d'Espagne, c'était le Mugaroché, et les juifs de l'Algérie, du Maghreb, c'était Chadim. Il y a eu une confrontation qui n'était pas. Alors, la question que m'intéresse, c'est au niveau séparade et au niveau ascénal, est-ce qu'il y a une différence?
Alors, c'est un peu de définition sémantique, encore une fois, parce qu'il faut parler des choses très précises. Séfarade en hébreu, ça veut dire Espagne. Ashkenaz, ça veut dire Allemagne. Par extension, à l'époque du Moyen-Âge, où les deux mondes étaient fermés, le monde chrétien et le monde musulman, on a par extension appelé les juifs qui vivaient dans l'empire musulman séparat globalement, et ceux qui vivaient dans l'empire chrétien, monde chrétien, on les appelait Ashkenaz. C'est une extension qui est un peu abusive, parce qu'il y a toujours eu des séfardines qui habitaient la zone chrétienne, je parle des Balkans en particulier, et il y a toujours eu des Ashkenazines qui venaient prendre femme en Afrique du Nord, parce que le respect, la pureté du sang était beaucoup plus, comme chez les musulmans, il y a tous les gens qui s'appellent Serfati, par exemple, ce sont des juifs ashkénazes qui sont venus de France prendre terre souche en Afrique du Nord, parce qu'ils étaient certains que les lignées étaient parfaitement nettes, qu'il n'y avait pas eu de conversion, qu'il n'y avait pas eu de... Voilà, ceci est une idée particulière. Donc le monde n'était pas si hermétique que cela, mais c'était une exception. Sur le plan de la référence à la tradition juive, la religion juive est la même chez les séfarades et les ashkénazes, les rituels sont tout à fait différents. La méconnaissance des uns par rapport aux autres était énorme. Si tu savais l'attitude de mon pauvre papa qui venait du fin fond de sa Pologne, d'une famille chassidique, le chassidé Gour, quand il avait débarqué après les indépendances, les Juifs séparades à Grenoble, ça a été pour lui un traumatisme effroyable, effroyable, hein, pour tout te dire. Il comprenait beaucoup mieux les détailleurs, des clients arabes, que ces juifs qui venaient d'Afrique du Nord. Il y avait un hiatus absolument démentiel. C'est un hiatus, moi je dis en plaisantant, mais c'est un hiatus qui a été extrêmement douloureux en Israël même, où c'est une communauté, quand elle est arrivée, c'est du Maroc en tout cas, qui a été méprisée hein, par nos chers intellectuels juifs d'Europe. Donc, c'est un gros traumatisme, c'est un gros chemin qui a été remonté, et il a fallu certainement aux juifs israéliens d'origine orientale, je les appellerai comme ça, le même chemin que Obama vient de terminer pour les Noirs d'Amérique, il y a quelque part. Il y a eu une ségrégation en Israël pour ces gens-là, et elle existe toujours d'ailleurs, de façon très masquée, pour les Falachas, pour les Juifs éthiopiens. Je veux dire, quelque part, le peuple d'Israël n'est pas à l'abri du racisme, il n'est d'ailleurs pas à l'abri de la connerie, on le voit tous les jours, hein. C'est quelque chose qui a été très répandu dans ce monde, c'est la bêtise épaisse. Et je crois qu'on est là un peu pour la combattre au sein de nos communautés et entre communautés. Montrons quand même qu'on est lucide. Mais quant au rite, c'est la même situation. Une anecdote pour toi. Une anecdote de mon père. Un jour, un rabbin de Pologne envoie une lettre au hasard au Maroc en disant « Est-ce qu'il y a des communautés juives? Est-ce que vous savez dire l'hébreu ?» Et le rabbin qu'il a reçu au Maroc lui a envoyé en corrigeant les fautes. Je veux dire que quelque part, c'était des judaïsmes extrêmement brillants. Moi, je pense que malgré les aléas qui sont propres à la politique interne du monde musulman, à ces mouvements très divers, tu nous en as brillamment parlé hier, la situation juive a été aléatoire hein, dans le monde musulman. Mais globalement, on peut dire que les Juifs ont été quand même respectés dans leur vie, dans leur bien, par tradition, dans le monde musulman, à condition de respecter l'état de dignitude que le monde musulman leur a réservé. Ce n'était pas du tout les massacres épouvantables que l'Europe chrétienne a commis sur eux. Hein. Je veux dire, quelque part, le monde musulman n'a pas connu ce Joseph Cohen du 7e siècle, après les Mekabacha, la vallée de larmes que les Juifs d'Europe ont connue. Ça, c'est tout à fait vrai. Et peut-être sera-ce un jour un des éléments de réconciliation. Cette vie commune que ces gens ont eu très longtemps ensemble, même si des épisodes ont été moins glorieux, comme je te citais hier l'épopée des Almohades, qui a chassé non seulement les Juifs, mais les intellectuels. Parce que figurez-vous qu'à cette époque-là, c'était la même chose qu'à l'époque des nazis. Hein. Quand on combattait les Juifs, on combattait en même temps tout ce qui était intellectuel, on brûlait les livres. C'est-à-dire que l'histoire se renouvelle. Hein. Je veux dire que les fascistes, les fondamentalistes, de tout temps, commencent par brûler les livres. C'est pour ça que Nachman de Breslav, pour lequel j'ai une très grande révérence, disait « Il y a eu beaucoup de livres, il y aura beaucoup de livres, il faut respecter chacun d'entre eux, parce que tous sont nécessaires à la survie du monde. »
Oui, j'aurais voulu revenir sur les différentes distinctions qu'on opère au sein des mitzvot, et notamment à cette catégorie difficile, ce sont les chukim. Donc les mitzvot qu'on est censé ne pas pouvoir expliquer raisonnablement ou rationnellement, etc. Je voudrais savoir comment on pourrait les articuler avec l'éthique, et notamment par rapport à la kashrout. Je comprends effectivement qu'il peut y avoir des interprétations par rapport à la science moderne, etc. L'écologie, je crois que le gros mot tout à l'heure c'était macrobiotique, quelque chose comme ça. Voilà, enfin. Et voilà, alors, parce que enfin, j'ai plutôt tendance à considérer que la lecture éthique des chukim serait une interprétation sans doute légitime, mais que ça n'explique en rien ces mitzvot. Je crois qu'il faudrait peut-être distinguer à ce niveau-là l'interprétation de l'explication de leur nature.
Votre remarque contient sa réponse. Parce que initialement, les mitzvot n'étaient pas faits du tout pour être expliqués, ni pour revêtir la moindre cohérence. L'éclairage que je vous donne, c'est l'éclairage d'Albert Fascher, qui vient en 2009, qui essaye de vivre son judaïsme, et qui essaye de trouver du sens. Quel sens trouvons-nous, nous, hommes contemporains, à ce vieux texte? Mais il est bien évident que l'ensemble de ces mitzvot, c'était des lois qui étaient incompréhensibles. Alors pourquoi fallait-il les appliquer? Certainement parce que elles étaient l'emballage légal d'un contenu éthique, d'une nouvelle forme de pensée, d'un renouvellement de la pensée et de la cosmogonie humaine et du projet, j'allais dire, humain, qui était absolument fondamental. Elles étaient l'emballage. Parce que tout simplement, quand on veut créer un peuple d'élite, comme disait De Gaulle, quand on veut mettre les gens en mouvement, eh bien, il faut en faire un corps de lansquenet. Il faut leur donner des règles qu'ils n'ont pas celles de tout le monde. Actuellement, les archéologues israéliens, quand ils veulent déterminer les avancées de l'homme de Juda, on le voit actuellement avec la découverte d'une nouvelle forteresse avec des éléments d'écriture proto-hébraïque, qu'est-ce qu'ils fouillent? Ils regardent ce que les gens mangeaient. Eh bien, là où les gens mangeaient du cochon, on avait du cochon, on savait que c'était les Philistins. De l'autre côté, là, on trouvait des os de petits détails, on savait que c'était les Juifs. Donc, je veux dire, quelque part, dès cette époque-là, cette espèce de segmentation, cette différenciation, se faisait par les coutumes. D'accord? Et dans ces coutumes, c'est nous, maintenant, qui cherchons du sens. C'est nous qui essayons de les coller à une vision extraordinaire. Et de ce monde, quoi. Moi, je trouve que je suis très interpellé par la cache-route actuellement, justement dans cette espèce d'intuition extraordinaire qu'elle a de nous imposer le respect du monde, interdire la chasse, proposer des modes de consommation de la viande qui réduisent pratiquement de 90% la consommation de la viande, proposer des produits qu'on a créés, qu'on a élevés, proposer un type d'exploitation des richesses qui repose sur l'élevage et non plus sur la cueillette. C'est un passage global de l'humanité du stade du nomadisme au stade de la sédentarité. Alors vous savez comme moi que la société urbaine moderne est née à Sumer avec la sédentarisation des nomades, avec l'invention de l'agriculture, avec le stockage du grain, et que le monothéisme est né exactement au même endroit. Donc on ne peut pas scientifiquement dissocier l'invention du monothéisme et l'apparition d'une civilisation nouvelle qui était basée non plus sur la cueillette et sur la chasse, mais sur un autre mode de consommation, lequel mode de consommation permettait également la sauvegarde de l'environnement. Je vous rappelle que le Talmud interdit de couper un arbre pour faire une fortification. C'est-à-dire quelque part, cette espèce de notion d'intégration du monde qui nous entoure dans ce processus dynamique d'élévation et de création existe. Lisez la sortie de Noé de l'Arche, l'alliance que fait Dieu avec lui, ça comporte déjà cet élément de rapport au monde. Rapport au monde pour, là, encore une fois, pour le sanctifier. Donc je veux dire que quelque part, le fait que ce soit des choses incompréhensibles
ne me gêne en rien. Je pense que toutes les sociétés ont été basées sur des arbitraires et qui étaient des façons de distinguer du monde qui les entourait. Mais je ne vous cache pas que les Juifs ont adopté autre chose. La circoncision de venir d'Égypte. Et en Égypte, elle est venue d'Afrique. Tu vois, quelque part, on a aussi piqué les choses aux autres. Mais pour les intérêts d'un projet qui est quand même tout à fait différent. Donc je ne suis pas dérangé par la nature incompréhensible des routines. Je suis beaucoup plus embêté, si vous voulez, par la tentative absolue de rationaliser médicalement la cacheroute, par exemple. Quand mes amis ultra-religieux viennent me dire « Ah, tu sais, t'as vu ça hein ?» Le sang, l'hème, l'hémoglobine, est responsable du cancer du côlon. Donc les rabbins, ils avaient déjà compris que quand on consomme le sang, on n'a pas de cancer du côlon. Mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise absolue. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas faire des raisonnements a contrario. C'est le déni de toute l'égalité du raisonnement, quelque part. Mais l'idée même que ce soit des choses incompréhensibles, moi, ça me plaît au contraire beaucoup. Il faut savoir. Et écoute, la mode, actuellement, l'art de plaire, l'art de gérer le contact entre humains, elle est basée sur des choses, des codes qui sont totalement incompréhensibles. Hein? Un hébreu qui reviendrait, qui est habitué à ses lois alimentaires et à toutes ses mitzvot, et voit fonctionner les revues de mode, il dirait, mais qu'est-ce que c'est que ces codes auxquels je ne comprends rien? Il y a plein de codes qui gèrent les relations entre les gens. Tu ne comprends rien, c'est pas la même chose. Chaque civilisation produit ses codes. Et je dirais même que pour se distinguer de la précédente, il faut des codes, même absolument incompréhensibles. Et dans le lot, il y a quand même des mitzvot qui sont parfaitement compréhensibles, et ce sont justement toutes celles qui concernent le rapport à l'autre. Dans la nature du tzaddik, l'homme éthique par excellence, il y a une obligation qui est assez extraordinaire, ça s'appelle la Gemilut Hasadim, c'est-à-dire c'est le plein de bonté, ça s'appelle, la totalité de la bonté. Et ça comprend toute une série de règles qui vont de l'assistance à l'enterrement des morts, de la visite à l'aveugle, le bikurcholim, la visite aux malades, qui vont du prêt sans intérêt, du don, le don qui doit être fait complètement de façon clandestine, sans publicité. Et dans le lot du vélotracine, il y a la réprimande amicale. Tu as le droit de dire à un type, écoute, je viens t'aider, je vais faire des choses pour toi, mais au fait, hein, si tu es dans la mouise, c'est bien que tu y es lui. Il faut que je te le dise quand même, parce que je suis ton ami. Donc je veux dire, dans cette bonté, il y a un élément actif qui témoigne quand même d'une extraordinaire compréhension du fonctionnement humain. Comme dans ce que j'ai rappelé tout à l'heure sur ce ticket d'amine, sur l'interdiction d'humilier quelqu'un en public. Je crois que ça témoigne d'une connaissance quand même du comportement humain qui est tout à fait extraordinaire. Donc ça, ce ne sont pas des croquis. Mais ce sont des règles de vie ensemble. Parce que si on oublie que pour toute la tradition juive, notre destin est déjà a priori collectif, tu vois qu'il y a déjà une limitation à cette notion de liberté individuelle. La rédemption pour le peuple juif, elle est collective. Elle n'est pas individuelle. C'est une des grandes choses qui nous sépare des chrétiens. Notre rédemption, elle est visible, elle n'est pas invisible. Notre rédemption, c'est une restauration sur notre terre, tous ensemble, avec un roi. Donc, quelque chose de... Ouais. J'avais peur que ce soit lui qui m'engueule. Voilà. Je sais bien plus ce que je disais. Je parlais de la gueule de pratique. Pardon. Je disais que là, je dis, c'est comme au foot, c'est tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Je veux dire, la restauration sur la terre, le retour des exilés, des tribus du Kaloyot, la restauration d'un roi, c'est un pouvoir politique sur la terre d'Israël. Bon, la résurrection des morts, elle vient bien en dernier. Il y a quelque part, cette notion de destin collectif, elle est tout à fait fondamentale. Et c'est ce qui fonde le caractère assez arbitraire de certaines mitzvot. Ces éléments de cohésion d'un peuple dans un projet particulier, qui est celui, individuellement comme collectivement, d'accession à la sainteté.
Moi, je vais simplement revenir à Abraham. Sarah,
étant stérile, demande à Abraham de coucher avec sa servante Agar. Merci. Oui, c'est pas une sucette, hein, quand même. Bon, alors, Sarah étant stérile, demande à Abraham de coucher avec sa servante Agar pour avoir un enfant. Donc, il accepte et Ismaël naît. Sur ce, Sarah a un enfant, Isaac. Trois personnes viennent voir au chêne de Mamré, trois anges, viennent voir au chêne de Mamré Abraham et lui disent que Sarah va avoir un enfant. Alors ils ne comprennent pas ni l'un ni l'autre parce qu'ils sont âgés tous les deux. Sarah rit et elle dit Sarah rit. Elle dit non, Sarah n'a pas ri, mais si, Sarah rit. Mais après, quand tous les deux bébés deviennent un peu plus grands, il y a un problème. Qui va être aimé, Isaac ou Ismaël? Alors, Sarah trouve la solution, demande à Abraham de renvoyer Agar avec son fils Ismaël, avec une outre d'eau et quelques aliments dans le désert. Et ça, je ne trouve pas très juste de la part de Dieu qui a laissé faire cela. Dieu est là pour, parce qu'il a eu un ange pour lui donner la source pour abreuver Agar et le Ismaël, le bébé après. Hein.
Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Toute cette histoire est scandaleuse. Ça ressemble à un mauvais péplum de la métro Goldwyn-Mayer, moi, je trouve. Hein. On nous refait Moïse, les 10 commandements et tout le reste. Ça. C'est vrai que c'est une tragédie, c'est pas une tragédie, parce qu'on a un point de clivage quand même avec nos amis musulmans. De la même manière que l'alligator d'Isaac pour les musulmans, c'est l'alligator d'Ismaël. La centralité du personnage d'Ismaël, et c'est très important cette histoire, elle montre que, comme souvent dans le texte biblique, le récit est jalonné par des injustices flagrantes. Qui sont des injustices, liées à la transmission, à l'enfantement d'une génération à une autre, comme si le droit était à renouveler d'une génération à l'autre. Ça, c'est un des premiers enjeux. L'enjeu interne au couple Abraham-Sarah est assez extraordinaire, parce que là, on est vraiment non plus dans Los Angeles, hein, là, on est vraiment dans les apopines, quoi. C'est un problème de couple. Hein. Pourquoi Sarah rit? Parce que son mari, manifestement, a dépassé l'âge où on avait des rapports sexuels, puisqu'elle-même a dépassé cet âge, et quelque part, elle manifeste un mépris absolument certain pour son compagnon, quelque part. Ce brave homme qui dit oui à tout le monde. Abraham, c'est l'homme qui dit oui à tout le monde, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Il est assez extraordinaire dans sa bonté, dans son chesed. Et ce qui leur arrive, c'est-à-dire cette procréation un tout petit peu tardive qui crée cette espèce de mythe fondateur des pères d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob, c'est un défi manifeste aux lois de la nature, c'est évident. Et par contre, le fait que du fait de là que le garçon Ismaël qui a 13 ans gêne son propre fils, qu'il aille au désert, là c'est un authentique drame et un drame fondateur. C'est-à-dire qu'on montre très bien le jalonnement quand même de l'injustice incompréhensible dans ce texte. C'est pour ça que je parlais de cette métaphysique qui doit nous faire transcender cette histoire. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas du point de vue. Tout ce qu'on comprend, c'est que quelque part le scripteur, c'est l'homme qui a rédigé cette belle légende, il va dire, oh là là, on va ranger un peu les bidons, on va dire que Ismaël va être le père d'un très grand peuple, comme ça peut-être qu'il cessera d'avoir ce sentiment d'injustice à l'égard de son jeune frère Isaac, qui lui est destiné à créer par Jacob le fameux peuple qui recevra la vie. Donc je dirais que c'est une histoire qui est choquante, mais qui mérite d'être lue au plan de ses enseignements. Je pense que c'est une histoire qui n'a strictement aucune réalité historique. La réalité des prophètes, si vous voulez,
elle relève complètement du mythe fondateur, de très beau mythe, riche d'enseignements, riche d'histoire, de la même manière que la rédaction de ce texte elle a été manipulée. On dit qu'il y a quatre grands auteurs, mais on devine qu'il y en a moins de quarantaine. Il y a une assimilation des mythes avoisinants. Je crois que quelque part, il faut réinsérer ces textes dans leur époque, retrouver leur valeur dans l'enseignement éthique, et surtout retrouver la place du questionnement. Pourquoi c'est comme ça? Moi, je crois que, je dis une chose en plaisantant, mais qui est vraie, je crois que je reviens à ce thème d'Abraham, amour absolu. Je crois que quelqu'un dire oui tout le temps à tout le monde, et en particulier à sa femme, ben ça ne marche pas. Voilà, c'est pas structurant pour une famille. Et c'est ce qui s'est passé avec la malignité de Sarah. Mais si vous remarquez bien que toutes ces histoires, à chacune de ces générations, vous revoyez mise en cause, et c'est là que le texte de la Bible est complètement subversif, les droits naturels des aînés par rapport aux cadets, les droits naturels des pères par rapport aux fils. Il y a des révoltes, comme dans l'histoire de France, il y a des prises de pouvoir, il y a des coups d'État, il y a des putschs absolument en permanence. Comme si, quelque part, une insécurité historique traversait derrière le texte, qui était une espèce d'annulation du sentiment d'une rationalité dans tout ça, pour faire la place au sentiment humain et au choix humain à chaque génération. C'est pour ça que moi je considère que cette histoire d'injustice faite à Ismaël, c'est l'histoire d'une panne dans la transmission. Incomplète, puisque les deux sont circoncis, les deux sont fondateurs de grandes religions, bien évidemment, dans lesquelles nous habitons encore actuellement, mais chacune de ces situations qui peuvent sembler injustes et qui peuvent nous amener à porter un jugement, ne doit pas nous amener à porter un jugement, mais un questionnement. Pourquoi ? Comment expliquer ça ? Comment lire ça, maintenant ? Et moi, je pense que cette histoire de dire, écoutez, il y a l'histoire sainte, on vous dit, c'est bien, c'est comme ça, il est terrible, ben, ça ne marche pas. C'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire d'hommes. On met en scène des situations classiques, exactement comme le théâtre élisabéthain, exactement comme Molière, et on dit, qu'est-ce qui va se passer ? Hein ? On fait une recette, on mélange la sauce, et qu'est-ce qui sort ? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas avoir peur de dire des choses pareilles. Le texte biblique, et il faut le disloquer, il faut le mâcher, il faut l'interpréter et l'assimiler. Marloket en hébreu, l'analyse du texte, exégèse, ça veut dire brisure. C'est de la brisure qui ressort du sens. Briser le texte. Hein. Et il y a un midrash qui raconte une très belle histoire, que je ne résiste pas au plaisir de citer. C'est pourquoi ce Moïse qui a tellement bossé avec Dieu, 40 jours, 40 nuits, quand il arrive à ce camp des Hébreux, qu'il les voit célébrer le fameux veau d'or, qui prend une grosse colère et qui casse les tables de la loi, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Le Midrash dit, mais c'est pas du tout parce que les Juifs étaient idolâtres. Ils ont toujours été, et ils vont le rester là. On parle d'idolâtrie jusqu'à nos jours. Ça veut dire quelque part, cette petite tentation d'idolâtrie, elle existe à chacun d'entre nous. Il ne faut pas se voler la face, hein, quelque part. Non. Moïse dit, mon de chien, si se noter à adorer mon texte, comme ils adorent. Non, moi je veux pas ça. Le texte, il n'est pas sacré. Mon texte, c'est pas une idole. Ils vont faire de la Bible une idole. Alors je brise, pas qu'un brise. Voilà l'explication. Et à mon avis, c'est la bonne.
Moi, je voudrais redire ce que je dis très souvent ici.
Je suis pas d'accord avec toi.
Ça m'arrive, oui, mais pas ce soir. Mais ça m'arrive, tout à fait. C'était le cas chez Claudie et Pierre le jour, mais pas ce soir. Mais ce serait le cas, je dirais de la même manière. Pas toujours de façon très diplomatique. Moi, je voudrais redire, et donc, très souvent je dis ça, et je n'ai pas l'habitude de faire d'être obséquieux, souvent je rentre dedans même, mais je redire le bonheur lumineux de côtoyer des juifs, l'enrichissement spirituel et humain que les juifs nous procurent. On a eu une démonstration lumineuse ce soir, parce qu'une fois de plus, Albert, tu nous as offert un merveilleux moment de bonheur. Je n'ai pas choisi ce terme par hasard, cette expression par hasard, parce que j'ai préparé un petit peu la conférence, enfin, pas la conférence, mais la résonance, pour voir ce qui pouvait venir en résonance. Et je relisais des notes que j'avais prises à la suite décortiquer des ouvrages ou entendu des conférences du grand rabbin. Et le grand rabbin, et le grand rabbin Alexandre Safran écrivait que le mot Torah, généralement traduit par loi, signifie en fait chemin du bonheur. Et ce soir, il nous a offert un véritable, de suivre un véritable chemin du bonheur. Et puis, bonheur pour moi aussi de retrouver cette remarquable harmonie que je retrouvais avec le grand rabbin Gage quand j'allais à Genève. Harmonie avec des maîtres du judaïsme, avec des auteurs, des conférenciers. Et tu as parlé par exemple de transcendance et de temps. Trois exemples de résonance par rapport à ce que j'ai noté là. Par exemple, pour les mitzvot, le grand rabbin Gage nous a dit un jour, qu'est-ce que c'est une mitzvah ? Une mitzvah, ça veut dire être ensemble. En fait, c'est ce qui permet à l'homme d'être en convivialité avec le divin, d'être ensemble avec Dieu. Et il disait, si je suis avec Dieu, je suis au-delà du temps. On retrouve Abraham Heschel. Et la mitzvah permet de dépasser le côté évanescent du temps. Il y a des instants d'illumination qui ouvrent à la transcendance, donc ce que tu nous disais tout à l'heure. Et pourquoi accomplir deux notes que j'avais prises. Pourquoi accomplir? Catherine Chalier dit dans un petit ouvrage, pourquoi accomplir un mitzvah? Parce que l'homme consent à s'ouvrir à ce qui transcende sa volonté propre. On retrouve encore une résonance. Et puis, quelle est la finalité de l'accomplissement? Et ça, j'ai trouvé ça remarquable, dans un livre de Nadine Senzalt, qui nous dit que Rabbi Yohanan, donc un grand maître du judaïsme, disait « Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi et les règles, donc les mitzvot, non pas pour que nous les accomplissions, mais pour que nous nous accomplissions ?» Et c'est ce que j'ai entendu tout au long de cette conférence. C'est tout à fait différent. Quand on a insisté sur le mot « accomplissement », c'est pas... Parce que c'est vrai que certains chrétiens disent « Ah, ils sont dans un formalisme là... » Ah non, ils accomplissent, pas pour accomplir, mais pour s'accomplir. Merci beaucoup.
Je suis très préoccupé quand les gens me disent « mais c'est quand même très compliqué, ces niveaux de compréhension, le pshat, le remez, le drash, le sod, faut travailler, faut aller chercher du sens. » Il faut aussi accepter l'idée qu'à la fin des temps, le sens nous sera révélé. Et cette idée même que tout un tas de choses que nous ne connaissons pas sont les mystiques qui l'ont dit. Quelque part, il faut accepter l'idée d'une incompréhension temporaire du monde au prix de cette explication à la fin des temps. Et Rabbi Nachman racontait que qu'est-ce que c'est que le sod, qu'est-ce que c'est que le point le plus difficile de la compréhension du texte biblique ? Eh bien, c'est tout simplement le blanc qui entoure le noir de l'être. Et là, il dit quelque chose qui est très fort, ça ne relève pas de l'ésotérisme, ça. Ça veut dire simplement que la vérité, elle est plus complexe que celle qu'on croit. Et que probablement, le sod, le sens profond de l'histoire, c'est que probablement le négatif et le positif sont la même chose. Et ils sont la même chose dans le retour de l'unité. C'est pas par hasard que le projet messianique, c'est un retour à l'unité. L'unité du monde, l'unité des croyants, l'unité avec Dieu, bien évidemment, le tikkun, cette espèce de réparation. Il y avait une très belle métaphore un petit peu de Jacob Gordin qui disait que toutes les nations, toutes les religions sont des perles d'une eau extraordinaire. Quelle est la place du peuple juif en tout ça? Quel est son but? Quelle est sa fonction? C'est d'être le fil qui un jour réunira toutes ces perles dans un collier d'unité. Et je trouve que c'est très beau ceci. Ça veut dire que la vérité, elle est problème partout, elle est complexe, elle n'est pas une quelque part. La fin des temps, c'est ce que nous récitons à la fin de Aleinu le Shabéar, quand prière finale des offices, quand on dit et en ce jour Dieu sera un et son nom sera un. On souhaite qu'un jour, parce que ce jour ce sera le jour de l'explication dernière. J'aime pas le terme de jugement, mais l'explication dernière, cela, ce retour absolument à l'unité. Et je crois que dans cette espèce de perspective un petit peu d'union, c'est l'union mystique. C'est les mystiques, hein, on s'est beaucoup moqué d'eux, mais ils nous apprennent beaucoup de choses. Hein. Ils nous apprennent sur la simplicité, sur l'acceptation du monde, et ils nous apprennent sur le bonheur. Tu parlais du bonheur. Tu vois, quelque part, les bêches, tu nous as appris quoi? À chanter, à danser, à être heureux, à boire des canons, à être bien avec soi, bien avec ses amis, parce que tout ceci procède de l'amour de Dieu, tout simplement. Hein. Une religion, une pratique, eh ben, elle n'a pas à être triste. Hein. Elle n'a pas à être sinistre, elle n'a pas à être décoiffante, elle n'a pas à être stérilisatrice, elle n'a pas à être castratrice. Hein, je veux dire, quelque part, il y a un bonheur dans tout ça. Parce que tout simplement, à la fin, on sait qu'on va arriver à comprendre un peu quelque chose, peut-être, quelque part. On verra la fin du film, hein, j'espère. Mais que, quelque part, on est à peu près certain qu'on nous aime.
C'est rassurant. Quand la crise à l'amour. Qui a besoin, qui désire, qui souhaite.
Moi, je suis un maître bavard, alors je vais
intervenir. Voilà. Merci. Il faut tout de même que je me présente. Je suis d'origine allemande, mariée depuis plus d'un demi-siècle avec un Français, mais tout de même d'origine allemande. Mon père était pasteur, et comme pasteur, il a vécu le national-socialisme. Comme il était veuve avec nous, quatre enfants tout petits, il fallait bien qu'il vit pour nous. Alors, vous parliez, il y avait une chose que je voulais d'abord vous dire. Je suis donc grandi contre le national-socialisme. La peur, je la connaissais, bien sûr. Mais il y avait, vous parliez tout à l'heure, la première chose, quand on poursuit quelqu'un, on brûle les livres. Eh bien, voyez-vous, en même temps comme enfant, j'ai vu, j'ai constaté que les livres juifs circulaient, comme on dit, sous le manteau, incroyablement parmi le peuple. Il y avait une deuxième chose, très simple, parce que je ne peux pas parler d'une façon si intelligente comme vous dites, qui m'avait beaucoup frappée. Et je pense que ça n'a rien à voir avec uniquement l'Église protestante en Allemagne. Comme enfant, j'étais naturellement frappée à quel point, au fil des années du national-socialisme, les églises se vidaient. Et un jour, dans une église aussi plus que vide, comme enfant, j'ai eu comme la révélation, la science, que tous ceux, les peu qui étaient là dans l'église, leur foi était si grande qu'elle remplaçait la foi d'autrefois de 3, 4, 5 autres personnes. Donc, même à n'importe quel, pour moi c'était, je ne l'ai jamais oublié, une espérance pour toute la vie, rien n'est vraiment possible qu'on le décrit. Et que nous avons le droit et le devoir et la chance de malgré tout toujours vivre avec l'espérance. Merci pour ce témoignage, Yamala. Merci bien.
Oui, ben je m'en laisse. Moi aussi, je pense, je suis très bien, ce que vous dites, très bien. Moi, j'ai toujours été très ému, et par quelque chose qui est très évocateur, ce sont les jeunes de la Rose Blanche, ces jeunes protestants, avec leurs pasteurs, leurs professeurs d'université, qui ont diffusé des tracts à partir de 1943 contre le nazisme, des gens très jeunes, et qui ont été décapités. Hein. Je veux dire, quelque part, ce sont des gens qui n'ont pas attendu la fin annoncée de l'Allemagne pour se révéler résistants. Je veux dire qu'ils ont payé de leur vie des engagements qui étaient probablement des engagements religieux. Mais vous avez parlé aussi de quelque chose qui est très important, c'est la peur. Je veux dire qu'un des fonctionnements de la totalité, comme disait Lévinas, c'est-à-dire des régimes totalitaires, qu'ils soient fondamentalistes, religieux ou politiques, on l'a bien vu, c'est tout simplement l'anéantissement d'une pensée vivante, du livre, c'est l'anéantissement des moyens de communication, c'est la rigidification des liens sociaux, Kinder, Küchen, Kirchhoff, c'est-à-dire les femmes à la cuisine et à l'église, quoi. Il y a quelque part un retour en arrière sur le plan de l'échange entre les sexes, une espèce de caporalisation de la société, bien évidemment. C'est le discours unique et le plus abruti, le plus bête qui soit. Tu vois, Freddy, là, on en parle souvent ensemble, tu es comme moi, tu milites pour que les prêtres musulmans, les imams, relèvent d'une éducation académique, universitaire, mais on fait la même chose pour les rabbins. Je veux dire que c'est par ce biais-là qu'on va élever les niveaux. Et tu sais bien que dans les régimes fondamentalisme, ce sont les plus ignares, les plus bêtes, les plus malfaisants qui sont là. Et j'en connais quelques-uns dans la tradition juive, des rabbins autoproclamés, qui sont d'une bêtise épaisse et d'une intolérance parfaite. Je veux dire que ça aussi, nous sommes guettés par la totalité dans nos activités. Donc c'est pour ça que quand je parlais de cette espèce d'exigence de sainteté, j'intègre à la sainteté toute recherche intellectuelle. C'est-à-dire que la volonté de dépasser ce qu'on est par la réflexion, par le jugement, ça c'est la liberté. Ça c'est l'infini, comme dirait Lévinas. La totalité, c'est de remettre sa liberté entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça se fait par le biais de la peur, en général. Et je crois que l'Allemagne a été conduite alors qu'elle était le phare de la vie intellectuelle européenne pendant si longtemps, depuis les grands philosophes, depuis Kant, jusqu'à 1930, tout le monde avait le rythme de l'Allemagne en matière médicale, psychologique, littéraire, musicale. Et que ce soit arrivé là, c'est très évocateur. Parce que certainement, ni les hommes d'affaires, ni les industriels, ni les intellectuels, ni les professeurs n'ont eu le courage de leur intelligence. Et c'est cette espèce de manque de courage qu'il faut chaque fois condamner. Moi, je condamne sévèrement, et j'ai dit encore l'autre jour que les Palestiniens et les Israéliens sont deux grands peuples qui n'ont pas les dirigeants qu'ils méritent. Je déplore que dans la démocratie, la politique soit le métier maintenant des dévoyés, des gens qui n'ont ni morale, ni culture. Je veux dire que quelque part, la chose publique a échappé aux gens intelligents. On est sous la main de gens que les peuples ne méritent pas, vraiment, et qui leur font du mal, quelque part. Et je déplore que, dans le peuple juif, en Israël en particulier, un peuple qui a sécrété tellement de lumière, on est des dirigeants incapables de générosité, d'une vision à terme, une vision large, lointaine. Et je veux dire, ce peuple qui a fabriqué les prophètes est incapable de fabriquer un de Gaulle. Et ça, c'est pour moi, c'est une personnelle tragédie, parce que j'en fais partie passionnément. C'est la même chose pour les Palestiniens. Voilà un grand peuple. Il n'y a pas un peuple arabe qui ressemble plus aux Juifs que les Palestiniens. Autant d'intellectuels, autant de souffrances, autant d'exil. Et eux-mêmes, quand ils portent des gens au pouvoir, ce sont des gens qui sont des misérables, des nuls, des concussionnaires, des corrompus. Je veux dire, quel malheur, qu'est-ce qu'on a fait sur la Terre pour que ces deux grands peuples aient des dirigeants aussi nuls. Donc je reviens à ce lié sur l'Allemagne nazie. Je crois que quelque part, on peut être dans les élites, mais on peut aussi avoir peur. On a d'abord peur pour son quotidien, pour son district, pour son poste. C'est comme ça que ça commence. Après, on est complice, c'est la pire des choses. Donc, je crois qu'il faut se méfier, parce que je crois qu'on, sans revenir à Bertolt Brecht, je crois que quelque part, cette espèce de mode de fonctionnement des sociétés, c'est comme ça que j'appellerais, ça peut arriver partout. Il n'y a que trop de conformisme, puis l'intelligence.
En tout cas, c'est un véritable bonheur, je parle les forts. Un véritable bonheur d'entendre un juif dire ce que tu viens de dire avec un tel courage. Il y a des Palestiniens qui disent ça aussi. Et c'est pour ça les limites de la démocratie nous conduisent souvent à dire, je l'ai déjà dit ici, que ben, parfois, peut-être, il faudrait changer l'écriture en mettant deux S à la place d'un T.
Mais ce que j'en dis, c'est aussi pour le personnel politique français.
Tout à fait.
Soit, tous les jours, on est atterré par la médiocrité. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, la politique est la place des dévoyés. Les gens qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas d'activité intelligente dans la société, ils font la politique. Et c'est vraiment le. On arrive au bout de la. Comment dire, de l'échec relatif de la démocratie. Ouais. Puisque les gens intelligents s'en détournent. Voilà. Reviens-moi, tu seras Bram et Sarah.
Je voudrais dire quand même que sur le régime national-socialiste, il y a quand même des pasteurs, Niemeyer et Bonnefère en particulier, qui ont laissé leur vie pour créer l'église confessante contre le nazisme, contre Hitler. Et il n'y a pas que, hein, c'était les deux têtes qui ont tenu bon, qui ont été emprisonnés, le Bonnefère a été pendu dans sa cellule, et ils ont écrit, d'ailleurs on a ressorti les textes il n'y a pas tellement de temps qu'on a retrouvé, les textes qu'il a écrit à sa fiancée, et il y a beaucoup de pasteurs en Allemagne qui se sont élevés contre le régime nazi. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Bien sûr, il y a pas mal de pasteurs qui ont suivi Hitler pour ne pas avoir de problème. Hein? Ils ont suivi pour ne pas avoir de problème, ils étaient tranquilles. Mais par contre, d'autres, et beaucoup de monde qu'on ne connaît pas, comme tous les résistants dans tous les pays, il y a beaucoup qui ont été ignorés et qui ont été, heureusement, qui ont été là pour sauver les Juifs aussi, hein, en Allemagne, comme nous en France, on a sauvé les Juifs, comme nous à Esteban, nous avons sauvé les Juifs, nous avons fait passer les Juifs en Suisse, et suivant nos possibilités. Et donc, je tenais à le dire, et je remercie Madame pour son témoignage, parce que je sais que moi, je suis de l'après-guerre, j'ai tellement entendu parler de la guerre avec les bas, avec les populations juives qui étaient en résidence surveillée. Les magasins, ceux qui avaient des magasins étaient en résidence surveillée. Ceux qui étaient réfugiés, qui étaient d'autres pays, polonais ou autres, aussi simple pour les renvoyer en cas d'extermination. Ma sœur m'a toujours dit qu'il y avait des enfants qu'on voyait un jour ou deux en classe, et tout d'un coup, on ne les voyait plus. Et maman me disait, mais ça y est, ils sont partis. Donc une Polonaise, son père avait été chef d'orchestre en Pologne. On ne sait pas comment elle s'est arrivée avec les bas. Et bien une semaine en classe, et plus d'enfants à côté d'elle, et je voyais toujours ces tresses blondes roulées sur les oreilles. Son père était chef d'orchestre. Et maman lui a dit, mais sa pauvre, elle est partie encore. Et qu'on ne dise pas, qu'on ne savait pas que c'était le temps d'extermination.
D'ailleurs, j'en termine avec. Il y avait un très beau texte, je crois que c'est Niemöller qui l'avait écrit. C'est un beau texte qui avait été écrit. Il disait quand on est venu chercher les malades mentaux et les communistes, je n'ai rien dit. Quand on est venu chercher les juifs, je n'ai rien dit. Quand on a pris les catholiques, je n'ai rien dit. Quand on est venu chercher, personne n'a élevé la parole pour moi.
Je propose une dernière question pour ceux qui auraient encore envie de s'exprimer. C'est l'heure tourne, c'est tellement passionnant, on n'a pas vu le temps passer. Nos amis doivent rentrer à Chambéry. Est-ce que Solange?
Il a dit qu'il serait l'ami, de toute personne de par le monde, qui respectera la dignité de l'homme. Et il a dit aussi que la crainte doit être remplacée par l'espérance.
Oui. Et Tristan Bernard, qui était juif, arriva à Drancy, a dit à sa femme, nous vivions jusqu'ici dans la peur, nous vivons maintenant dans l'espérance.
mais c'était impossible. Ça veut dire, il dit des choses plus drôles, hein. Il disait triste époque où on bloque les coffres et on coffre les blocs.
Encore une fois, Albert, vraiment merci de tout cœur parce que c'est une soirée très très riche, une de nos plus grandes soirées là, vraiment. Ah si si, on a vraiment appris beaucoup, Céline Norbert était tout à fait juste et tout ce que tu nous as dit et tu as eu le courage de nous dire.
Oui.
Surtout, tout au départ aussi. Et je voudrais peut-être, pas tout à fait clore, puisque j'ai encore une ou deux annonces à vous faire, vous savez bien, la petite boîte qui va passer. Bon, avant ça, je vais vous dire quelque chose. Juste l'heure d'avant, j'ai reçu l'amitié judéo-chrétienne de Paris, associée au CIDIC, au service d'information de documentation juive et chrétien, un texte disant, vous pouvez le trouver dans la page de la déclaration concernant les événements graves de Gaza, et de bien vouloir la faire connaître largement. L'amitié judéo-chrétienne de France et le CIDIC, profondément préoccupés par le conflit israélo-palestinien, sont conscients, face aux souffrances qui en résultent, qu'une responsabilité particulière incombe aux trois religions monothéistes. Ils réaffirment le droit du peuple israélien à vivre en paix dans son État, le droit du peuple palestinien à avoir son État dans des conditions satisfaisantes de viabilité et de stabilité. Ils encouragent les responsables religieux et théologiens à continuer de dénoncer l'utilisation du nom de Dieu à des fins violentes et guerrières, et d'enseigner Dieu pour la paix, la justice et la reconnaissance de l'autre. Ils encouragent les groupes de rencontres et de dialogues entre juifs, chrétiens et musulmans à poursuivre leur travail, à témoigner du désir de paix par leurs prières et leurs actions humanitaires et à susciter la naissance de nouveaux groupes dans de différentes villes de notre pays. Enfin, ils disent leur espérance de voir un jour se réaliser à Jérusalem la vision du prophète Isaïe. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Isaïe 56, 7. Je crois que ce qui a été donné là, vous voyez les mails, c'est énorme, dans toute la France, à des niveaux très élevés. On est dans Philippe Barbarin, on est dans l'Institut catholique, vraiment énormément de gens vont avoir ces mails à faire diffuser. Claudie, en tant que responsable à Chambéry, je te l'ai envoyé pour diffuser à d'autres qui ne sont pas là, etc. Et je pense que tout ce qui est dit dans ce texte, il y a peut-être une chose, j'ai vu un monsieur réagir un peu, ça peut être vrai. Pourquoi les trois monothéistes? Il y en a deux en bagarre en ce moment. On peut en discuter, ce serait peut-être un peu délicat. Peut-être s'il y a quelqu'un... Non, le monde chrétien. Voilà. 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 Mais dans l'insuffisance ou dans... Oui, oui, voilà, voilà. La responsabilité qui incombe aux trois religions monothéistes, bon, à réfléchir pour chacun. Mais il est sûr que tout ce qui est dit dans ce texte, on en a parlé ce soir. On est dedans et on est dans l'idée ici, depuis 25 ans, ben, il n'y a plus d'anciens, sauf le père Barthélemy qui est toujours présent avec nous, mais aujourd'hui il n'y a même pas Jeannette, les autres sont très mal, voire plus tout à fait, sauf Jacqueline de Chevron-Villette, toujours bien présente à enseigner l'hébreu. On était plus de 20 personnes et toutes ces personnes ne sont plus... Mais il y a les nouveaux, il y a vous tous.
Et ça, c'est sûr, il y a vous et d'autres quand nous nous trouvons nombreux. Et merci, parce que nous pouvons continuer. Et là, vraiment, c'est, je trouve que c'est plein d'espoir. Norbert veut dire quelque chose?
Merci. Alors, je suis très heureux de ne pas avoir arrêté l'enregistrement. Normalement, je l'arrête à l'issue de la conférence. Parce qu'en fait, ce que tu viens de dire est extrêmement important. Et vous comprenez pourquoi souvent je vous saoule et vous re-saoule. Donc, je vous féliciterai lors de l'Assemblée Générale. Parce que si un tel message existe, un tel message si juste, au double sens du terme, c'est-à-dire plein de justice, pétri de justice et de justesse, c'est pas précisément parce que la Haute-Savoie et d'autres contribuent à l'existence de l'amitié judéo-chrétienne de France, représentée par Paris. S'il n'y a pas de cotisation, et si on revient toute l'année, Eliane et moi, sur, non pas l'obligation, mais la nécessité pour celles et ceux qui le peuvent de participer à la, aux cotisations qui ne viennent pas du tout dans notre caisse, nous qui ne font que transiter, c'est justement parce qu'on a besoin que cette amitié judo-chrétienne soit structurée pour avoir une parole aussi juste.
Oui, tout à fait. En tout cas, il est certain que merci pour vos cotisations, puisqu'on parle de cela. Elles ont été plus que nombreuses cette fois-ci. Merci, merci de la part pour tout le monde. Un grand merci. Non, on a atteint quelque chose de très beau pour Paris. Ça n'empêche pas la petite boîte de passer, que je vous disais que j'allais vous repasser. Alors, si vous voulez faire passer la petite boîte et puis toujours le petit papier. Alors, non, j'ai des annonces à faire, s'il vous plaît. J'ai des annonces à faire pour diverses choses. Tout d'abord, en premier, il va y avoir le 29 janvier, jeudi, une soirée interreligieuse avec nos amis musulmans, juifs, chrétiens, musulmans, à la salle Sainte-Bernadette, il y a le papier qui sera là. Le thème était proposé il y a déjà plusieurs mois, sera l'argent. Mais je pense qu'on peut débattre beaucoup autour de l'argent. Merci de venir nombreux, parce que c'est ouvert, bien sûr. Non, non, j'ai dit à 20h, j'ai dit à la salle Sainte-Bernadette. La salle à côté de l'église. Deuxièmement, il y a une formation dont vous avez aussi les papiers qui vont être des papiers jaunes. Formation, une session nationale de formation, comment être chrétien face au judaïsme ou après lui, point d'interrogation. Elle est organisée par le Service national des relations avec le judaïsme et avec le CIDIC. En général, elle est à Écully tous les ans, mois de mars, vous verrez, les papiers sont là pour ceux qui seraient intéressés. En général, il y a au moins 200 personnes. C'est très passionnant. Il y aura Armand Abécassis, entre autres. Vous lirez les détails pour ceux qui sont intéressés. Vraiment, venez, parce que c'est très, très, très bien. Troisième information dans ce style, à Annecy, le groupe Akiba a... Vous connaissez le groupe Akiba depuis quelques années, je vous en parle, pour avoir possibilité de cette association culturelle israélite du bassin annécien. Il y a le dimanche 25, c'est-à-dire là dans quelques jours, à 18h, une conférence sur le cosmos de Laurent Wiesenfeld, docteur en sciences, chercheur au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Grenoble. Venez, c'est au centre Jean 23. Si vous voulez des informations, elles sont là aussi. Ou à Raymond, notre ami Raymond Blum, qui est la présidente de d'Akiba. Et il y aura aussi d'autres conférences d'ici là, mais on se reverra. Puisqu'il y a Philippe Haddad qui vient au mois de mars. Faites bien passer l'information, car il va nous parler, vous savez, d'une lecture juive des évangiles, et ce sera, je crois, très très riche également. La date avait été changée, mais elle est juste sur les papiers. elle est le 17 mars. 17 mars, hein. Elle a été permutée par rapport au mois de juin ou de mai, puisque juin c'est autre chose.
Sur les conférences.
Voilà, c'est notre ami Gérard Manon qui parlera au mois de mai, et c'est Gérard Haddad, qui c'est de Gérard. En Philippe, ah oui, mais il y a un Gérard, je fais confusion. C'est Philippe Haddad qui vient au mois de mars, le 17. Vous vouliez dire, Eliane, quelque chose?
C'est très important pour nous, Église réformée de France, en Savoie. Nous organisons le 28 février toute la journée un colloque sur Calvaire. Vous savez que 2009 est l'année 500e anniversaire de la naissance de Calvaire. Il est décédé en 1564 et il est né en 1509. Donc, nous faisons un colloque à l'espace Côte, quai des Allobroges, le samedi 28 février. La salle sera ouverte à partir du matin avec une exposition que nous faisons nous-mêmes, que nous mettons, et Dieu sait, c'est un travail de tout temps, que nous mettons en train de, et qui sera ouverte dès matin. Bien sûr, entre midi et deux, nous allons manger, donc je pense qu'on va fermer la porte. Et après, l'après-midi, nous vendons donc avec les trois conférenciers, nous avons trois conférenciers qui viennent. Bernard Cotré, historien très connu de Paris, qui a déjà fait un livre sur Calvaire et qui vient de sortir un livre sur Calvaire et le royaume pour l'année Calvaire 2009. Nous avons également Vincent Smith, chirurgien pasteur à l'église réformée Saint-Pierre de Genève. Il a la chaire de Calvaire à Genève avec un autre pasteur, Van der Hinden. Et il viendra parler aussi sur Calvaire. Il y aura aussi Jérôme Cotin, l'ancien pasteur de Chamonix, qui viendra aussi parler de Calvaire. Et il vient lui maintenant, il est à Paris. Et le thème général, c'est la modernité de Calvaire actuellement. Mais chaque intervenant parlera sur un thème particulier. Bien sûr, il y aura un stand de librairie. Nous commandons des livres de chaque intervenant et des livres sur le protestantisme en plus. Donc, si ça vous intéresse, ne manquez pas ce colloque. Et en plus, le 30 janvier, donc ce mois-ci, Bernard Cotré, qui nous viendra après, qui est déjà venu deux fois à Chambéry, et qui a la tante à Chambéry, donc c'est facile pour lui de venir, Bernard Cotré vient à Grenoble, le 30 janvier, le soir, au centre de l'Église réformée de Grenoble, donc pour parler aussi sur une conférence sur Calvaire. Alors là, c'est sur la région, mais Calvaire, il y aura des manifestations dans toute la France, à Noyon, là où il est né, Picard, bien sûr, alors qu'il n'était pas de voix. Beaucoup de gens pensent qu'il est né à Genève. Non, il est mort à Genève, mais il est né à Noyon. Il y aura aussi beaucoup de colloques à Strasbourg, à Lyon, à Paris. Voilà, je vous laisse. Mais je crois que c'est très important ce colloque à trois voix.
Merci, merci Eliane. Merci à vous tous. Bonne soirée, bonne nuit maintenant. Bon retour. J'avoue que le 24 février aura lieu la deuxième partie de la conférence à trois voix sur la souffrance avec le docteur Kachler. Je rappelle le 24 février, la deuxième partie du travail de la conférence sur la souffrance
conférence à trois voix avec le docteur Fachler, le docteur Alma Hassan pour nos amis musulmans et un pédiatre chrétien, le docteur Bogela. C'est le 24 février à Chambéry, à la maison de Cézanne. Merci.